Vous écoutez
RMC.
5h-7h.
5-7. Le Morning RMC.
Élise Dangean, Mathieu Béliard.
Bonjour à toutes et à tous. Salut Mathias.
Reste Mathias.
Mathias Luguin qui remplace Arthur Asquin. Il fait le timide. Il revient dans 10 minutes.
Non, on va le retrouver vite. Qu'il aille se préparer.
Ça y est, regardez, c'est tout chaud. C'est l'émission du jour.
Bien,
ah voilà,
pain.
Ça sort de l'imprimante.
Un
merci
peu les
Mathias.
Boulangers de l'info.
Bonjour Géraldine, tiens.
Bah moi, tu m'appelles.
Bonjour encore. Bon, j'avoue, Géraldine, elle nous a manqué. Elle était pas là ces derniers jours.
Et puis on était en train de papoter en antenne. Donc d'un seul coup, bonjour Élise.
Bonjour Mathieu. Bonjour tout le monde. Et bonjour Géraldine surtout.
Bonjour à tous.
La star de la semaine. Vous manquerez rien avec Géraldine. On va y venir. Mais d'abord sur RMC, précisons-le, dans quelques instants, la deuxième mi-temps de Suède-Tunisie au Mexique en direct, RMC Radio officielle de la Coupe du Monde. C'est pas qu'un slogan, c'est un dispositif exceptionnel. C'est la mi-temps. Il y a 2-1 pour la Suède face à la Tunisie. On fait le point toutes les 10 minutes dans le Morning.
Et on rejoindra Edgar Grollo au commentaire, l'un des 40 envoyés spéciaux d'RMC. Et si vous voulez suivre le match en intégralité, c'est sur la radio digitale 100% Coupe du Monde que ça se passe. Vous pouvez la retrouver sur le site et sur l'appli RMC. Elle est disponible 24h/24.
Et puis c'est l'événement à RMC, vous jouez pour gagner votre prime de match. Si vous n'étiez pas avec nous la semaine dernière, grosse erreur, mais comme on est sympa, on va quand même vous redire ce que c'est que ce jeu. Actuellement, on a une prime. Le montant actuel, 47 500 euros.
On a commencé à 30 000.
Je vous rappelle qu'on rajoute 500 euros par but marqué à chaque match de la Coupe du Monde. 47 500 euros. Vous restez bien à l'écoute. À tout moment, on vous donnera le top inscription. Et à ce moment-là, vous aurez 10 minutes pour vous inscrire.
Et puis, c'est l'info de la nuit, comme cette annonce à la une de nos journaux ce matin. L'annonce d'un accord conclu entre les États-Unis et l'Iran. En conséquence, sur les marchés, le baril dégringole. De quoi entrevoir des jours meilleurs à la pompe, peut-être. Ça vous fait peut-être déjà réagir. Vous n'hésitez pas. 3216 et sur le WhatsApp RMC 06 12 424 424.
Et puis, alors, je le disais, c'est l'autre sujet. Il va faire la une toute la semaine. Une nouvelle vague de chaleur que nous annonce Géraldine, particulièrement dans le sud-ouest aujourd'hui, si je ne dis pas de bêtises, je parle sous votre contrôle, jusqu'à 35 degrés à Bordeaux. Ça va être pire qu'en mai, Géraldine, hein, c'est ça?
Oui, ça va être pire qu'en mai parce que ça va être plus étendu et ça va être plus chaud. On a aussi des journées qui sont plus longues, des nuits plus courtes. Donc oui, ça va être plus difficile encore que ce qu'on a eu le mois dernier.
Ah, tiens, quelle température est-ce que vous avez là sur le tableau de bord de la voiture? Vous nous le dites au 32-16 déjà ce matin, on commence à relever les compteurs.
Et c'est dans ce contexte que les lycéens passent le bac. Vous pouvez nous appeler ou nous écrire si ça vous inquiète pour vos ados face aux canicules. D'ailleurs, le ministre de l'Éducation nationale souhaite que les examens se tiennent uniquement le matin, plus d'épreuves du bac ou du brevet l'après-midi. C'est déjà presque toujours le cas, hein, mais il faudrait peut-être le systématiser. En 2019, on avait été jusqu'à décaler le brevet. Si cette annonce vous fait réagir, vous intervenez. Vous avez la parole ce matin au 32-16 sur RMC.
Là aussi, ça doit vous interpeller. Un chiffre qu'RMC dévoile en exclusivité ce matin. Plus de la moitié des travailleurs pauvres ne mangent pas à leur faim. Ils vivent sous le seuil de pauvreté, 1300 euros par mois. Ils travaillent, quel que soit le contrat. Et pour la majorité, ils se privent parfois ou souvent de nourriture, notamment pour leurs enfants.
28% des sondés affirment qu'ils n'arrivent pas à nourrir leurs enfants à leur faim. Alors, est-ce que vous reconnaissez dans cette étude? Vous travaillez, mais vous ne mangez pas à votre faim. Vous vous privez, vous sautez des repas. 40% sautent même plusieurs repas par semaine. On veut vous entendre. On écoute vos témoignages ce matin au 32-16.
Et puis, le choix de la rédaction, le front de la sécurité routière contre le téléphone au volant. Les Deux-Sèvres rejoignent aujourd'hui la liste des départements où vous risquez une suspension de permis si vous êtes pris la main au téléphone.
RMC vous apprend qu'aujourd'hui, que depuis le 1er janvier, 500 permis ont déjà été suspendus pour ce motif. Les Landes ont commencé, suivis du Pas-de-Calais, du Lot-et-Garonne et de la Charente-Maritime. 8 départements désormais. Alors, est-ce qu'il faut suspendre le permis des automobilistes pris avec le téléphone à la main? Est-ce qu'il faut généraliser cette mesure au niveau national? Vous nous le dites ce matin.
Ouais, bah, dites-nous franchement, ça vous fait peur ou pas? Est-ce que ça vous incite à garder le téléphone correctement rangé, de peur de perdre le permis, bien sûr, même temporairement. Clément vous attend au standard au 32-16. On lit vos messages WhatsApp au 06 12 424 424.
Et puis, on va jouer au mot caché, un petit mot qui sort de l'ordinaire, que Mathias Luguin nous a déniché ce matin. Si vous l'identifiez, vous envoyez moi au 7-32-16. Et alors, c'est le retour de la montre Kelton, la marque icône pop de l'horlogerie française qui fête ses 70 ans.
Et pour remporter votre montre Kelton, si vous entendez un mot qui sort de l'ordinaire, vous envoyez mot au 7-32-16.
La météo, Géraldine de Maury, ça y est, ça s'installe doucement mais sûrement cet épisode de chaleur.
Eh bien oui, on va forcément s'intéresser aux températures hein, cette semaine. Alors, c'est vraiment à partir de mercredi et jeudi qu'on rentrera vraiment dans la canicule. Mais déjà, hein, ce matin, on a des températures qui sont très élevées en haut, surtout sur le sud-ouest, hein, où on dépasse les 20 degrés déjà cette nuit. Cet après-midi, alors il fera plus que 21 degrés à Brest, alors qu'on avait 30 hier. 21 aussi à Lille. En revanche, on devrait atteindre les 35 degrés à Perpignan, à Montpellier, 34 à Bordeaux, 33 à Nantes, à La Rochelle, à Toulouse. Il fera 31 à Paris, Grenoble, 30 à Lyon, Clermont-Ferrand, 28 à Marseille, 25 à Reims. Avec beaucoup de soleil, on pourra juste avoir quelques orages sur le nord-ouest, quelques orages aussi sur le relief, mais ce sera pas très gênant. En revanche, pour les prochains jours, ben, on changera quasiment rien, si ce n'est que les températures vont vraiment grimper et cette chaleur qui va s'installer au moins jusqu'en début de semaine prochaine.
Il est 5h sur RMC, RMC Story. Très bon réveil à tous.
5-7, le Morning RMC.
Et on retrouve Thibaut Texer pour le journal. Bonjour Thibaut.
Bonjour Élise, bonjour Mathieu, bonjour à tous.
C'est l'information de la nuit, un accord pour une paix au Moyen-Orient.
Après 4 mois de guerre, Téhéran et Washington confirment la signature ce vendredi à Genève d'un accord. D'ici là, les deux parties ont convenu l'arrêt total des combats, y compris au Liban. Le sujet sera sur la table d'un sommet du G7 sur les bords du lac Léman, côté français. Évian, ville barricadée sous cloche et en présence de 16 000 policiers et gendarmes. Et puis on est à J-1 avant l'entrée en lice des Bleus à la Coupe du Monde face au Sénégal demain, et vous verrez que les Américains, s'ils ne connaissent pas bien le foot, il y a un tricolore qui fait fureur outre-Atlantique, c'est Kylian Mbappé.
L'accord est désormais finalisé.
Les mots de Donald Trump sur son réseau social cette nuit. Le président américain a donc confirmé l'annonce d'un médiateur pakistanais un peu plus tôt. Téhéran confirme dans la foulée la base de cet accord de paix qui devrait être signé, Julien Coudreau, avant la fin de la semaine.
Washington et Téhéran ont convenu de mettre fin immédiatement à toutes les opérations militaires au Moyen-Orient, y compris au Liban. C'est le premier ministre pakistanais qui l'annonce. Annonce confirmée par l'Iran qui estime avoir remporté de grandes victoires durant cette guerre. Donald Trump lui se félicite de ce compromis trouvé et décrète même déjà dans un message sur son réseau Truth Social la réouverture du détroit d'Hormuz ainsi que la levée immédiate du blocus naval américain. La signature officielle de cet accord est prévue vendredi à Genève en Suisse, possiblement en présence de Donald Trump, selon son vice-président J.D. Vance, qui prévoit, lui, de faire le déplacement. D'ici là, des médiateurs doivent encore tenir une série de réunions toute cette semaine afin de discuter des modalités techniques en vue de la mise en œuvre de cet accord.
Mais la réaction des marchés ne s'est pas fait attendre avec une baisse de plus de 4% sur les cours du pétrole sous les $85 ce matin. Et dans ce contexte, le Royaume-Uni, la France, l'Allemagne et l'Italie se disputent à lever certaines sanctions contre l'Iran. L'annonce tombe le jour des 80 ans de Donald Trump qui s'est offert pour l'occasion un combat MMA dans les jardins de la Maison-Blanche avant de rejoindre la France. Il est attendu à Évian aujourd'hui pour le G7.
Et avec un sujet majeur au cœur des discussions, Thibaut, et c'est la réouverture dans la durée du détroit d'Hormuz.
Mais c'est ce que dit Emmanuel Macron, arrivé sur place pour son dernier sommet hier soir en Haute-Savoie. L'Ukraine et l'économie mondiale seront les deux autres sujets de ce rendez-vous avec l'accord de paix, rendez-vous des grandes puissances mondiales attendu donc ce lundi pour 3 jours sur les bords du lac Léman. Et pour garantir leur sécurité, la ville d'Évian a été mise sous cloche. Reportage sur place de notre envoyé spécial RMC, Rachel Sadodine.
Sur les bords du lac, d'habitude noir de monde, les promeneurs sont rares, mais ils ont de la compagnie.
C'est un beau rassemblement d'hélicoptères. Il y a 2 de l'armée et puis 3 de la gendarmerie.
Les forces de l'ordre patrouillent aussi en bateau sur le lac et ça n'arrange pas du tout Nadia.
Moi, je voulais me baigner parce qu'il fait chaud, mais les policiers nous ont dit qu'on n'avait pas le droit à la baignade.
La jeune fille de 14 ans suit à grosses gouttes sous sa casquette. Malgré tout, elle s'estime chanceuse. Sa sœur, en terminale au lycée, va devoir aller passer l'épreuve de philosophie du bac à Thonon-les-Bains ce matin dans un bus escorté par les forces de l'ordre car le périmètre est bouclé. Pour circuler, les riverains doivent présenter un laissez-passer comme celui de Cédric.
Mon nom, mon prénom, ma date de naissance, puis avec un QR code quoi. Tout chaque contrôle, on est obligé de le montrer. On peut plus trop vivre.
Résultat, impossible pour les touristes d'entrer dans Évian. Les terrasses des cafés sont quasi vides. Seulement 3 personnes attablées au bistrot de Françoise.
Depuis 3 jours, c'est cata.
Et ça se ressent sur le chiffre d'affaires?
Ah oui, bien sûr, bah oui. -50, -70%. Donc on sait là qu'on est patron et qu'on n'a pas de salarié quoi.
Optimiste, la restauratrice appelle les forces de l'ordre et les membres des délégations officielles à venir déjeuner chez elle pendant le G7.
Et notez que d'ailleurs ont éclaté de l'autre côté du lac à Genève où plusieurs milliers de personnes se sont retrouvées aux abords du siège de l'ONU en Suisse. Parmi eux, près de 600 Black Blocs qui ont échangé des tirs de projectiles avec les forces de l'ordre qui ont usé de gaz lacrymogène.
Il est 5h04 sur RMC et bientôt l'heure du réveil pour plus de 530 000 élèves de terminale générale et technologique.
Ils vont passer le bac aujourd'hui avec la philosophie des 8 heures, avec un accent mis sur l'orthographe cette année à la demande du ministre de l'Éducation qui demande moins de laxisme en la matière. Édouard Geffray qui réclame également la fin des épreuves l'après-midi à partir de 2027 en raison des épisodes de forte chaleur qui se répètent d'année en année à l'instar de ce que l'on attend à partir de mercredi. Et autant le dire, Lou Garnier, l'annonce du ministre a fait écho auprès des futurs bacheliers.
Fiche Bristol à la main, ultime révision avant le début de l'épreuve.
J'essaye d'apprendre un peu les thèses principales, mais c'est un peu la mouise.
Un stress des épreuves du baccalauréat qui s'ajoute à l'appréhension de la chaleur. Pour Lenny et Karim, il va falloir redoubler de concentration.
La chaleur, c'est la mort. On transpire, on a chaud. L'air, il est difficilement respirable. Ça va peut-être nous donner envie de partir plus tôt de l'épreuve, de vouloir bâcler.
Ça va être plus compliqué que sous des conditions normales. La chaleur, ça donne un peu envie de dormir. Je sais, je vais m'endormir sur ma copie, mais juste, faut pas que ça soit trop long. Là, il y aura plus un enjeu psychologique.
Ça joue au mental de ouf.
D'autant plus que les salles d'examen ne sont pas toujours très adaptées à la chaleur, comme celle dans laquelle Henri s'apprête à passer près de 4 heures.
Je passe dans une salle vitrée, donc ça fait un peu effet serre. On est 30 par salle, et c'est des petites salles, pas climatisées, pas d'air, pas rien.
Alors pour éviter le coup de chaud, il a plusieurs astuces.
Tous les matins, je vais à la piscine, du coup ça rafraîchit un peu. Ma mère, elle m'a acheté un genre de ventilateur brumisateur. Je pense que ça va bien se passer avec ça.
Sans oublier plusieurs litres d'eau pour rester bien hydraté.
Alors, est-ce que ça vous semble être une mesure de bon sens de mettre toutes les épreuves du brevet et du bac uniquement le matin pour éviter les fortes chaleurs? Vous avez peut-être des ados à la maison qui passent des épreuves en ce moment. Venez nous le dire au 3216 ou sur le WhatsApp RMC 06 12 424 424.
Durcir les lois contre les casseurs après les débordements en marge de la victoire du PSG en Ligue des Champions, c'est la volonté de Sébastien Lecornu. Le Premier ministre veut présenter un texte dès juillet avec notamment l'idée de tenir pour responsable une personne présente dans un attroupement, peu importe son implication. L'idée a tout de même peu de chances de passer devant le Conseil constitutionnel.
Ça veut dire que si vous êtes présent dans un attroupement, vous êtes considéré comme un casseur. C'est vrai que ça pose des questions de droit, hein, de constitution. Est-ce que c'est la bonne idée ou est-ce que là aussi, enfin, on est en train de dire des choses un peu irréalisables au niveau du droit? Vous réagissez peut-être au 32-16. En attendant, il y aura du monde demain dans les fan zones du pays.
Elles sont un peu partout, réparties en France, avec le premier match des Bleus à la Coupe du Monde, opposé au Sénégal. Et on l'espère, hein, Kylian Mbappé des grands soirs. Il faut dire que le capitaine des Bleus est très attendu, élevé au rang de star de l'autre côté de l'Atlantique. Florent Germain a pu le constater pour RMC.
Oui, de Boston à New York, la même folie, Kylian Mbappé.
Mbappé.
Chaque jour, des Américains fans de foot se positionnent devant l'hôtel des Bleus à Boston et tous n'ont Dieu que pour le capitaine français.
Why? Pourquoi? Car Mbappé est le meilleur du monde, il marque tellement de buts et il va si vite, il peut encore faire gagner la France.
C'est un joueur différent des autres, de grande classe. Je ne comprends même pas qu'il puisse être critiqué au Real Madrid. J'espère qu'il fera une grande Coupe du Monde.
Cette Mbappé Mania ne surprend même plus son coéquipier Maxence Lacroix.
Je pense qu'on a l'habitude maintenant, dès qu'on va quelque part, on sait qu'il est acclamé, on est content pour lui.
Égérie de la marque Nike, fan de NBA et de la culture américaine, Kylian Mbappé était d'ailleurs très attendu hier à New York.
Il est sorti dans le dernier du bus, je pense que c'est le capitaine, donc il veut montrer aussi qu'il est là, il est concentré, il est prêt pour la compétition. En effet, Kylian Mbappé est un peu au-dessus, mais on est tous contents de tous les voir et ils sont tous aussi bons. Quoi.
Si jamais l'Amérique vibre aussi un peu pour les Bleus, ce sera donc en grande partie grâce à Kylian Mbappé.
Et en attendant, ce matin, on continue de suivre Suède-Tunisie. Le match vient de reprendre, toujours 2-1 pour les Suédois. Plutôt dans la nuit, la Côte d'Ivoire s'est imposée face à l'Équateur 1-0. Match nul entre les Pays-Bas et le Japon, 2 partout. Et le carton de l'Allemagne face au Curaçao novice dans la compétition, battu 7-1. Vous l'avez aussi vécu sur notre antenne, le carton du Stade français en top 14, vainqueur de La Rochelle en phase finale. 45-5, le capitaine des Parisiens, Paul Gabriargues, salue la performance de son équipe transcendée.
C'était déjà un événement, recevoir un barrage à domicile, ça faisait longtemps que c'était pas arrivé au Stade français. Je pense qu'on a bien géré toute la saison aussi en termes d'énergie, de temps de jeu. Pour arriver sur ces matchs importants avec le maximum d'énergie, c'est vrai que l'équipe ce soir avait beaucoup d'énergie. Les 20 premières minutes, on sentait qu'on voulait arriver avant eux parce qu'on savait qu'on allait avoir une grosse guerre là-dessus. C'est ce qui a permis aussi après derrière de mettre plus de choses en place et c'était important de le faire dès le début du match.
Les Parisiens opposés à Montpellier la semaine prochaine pour une place en finale. L'autre demi-finale opposera Toulouse au Racing 92.
Merci Thibaut Texer. C'était le journal de 5h sur RMC. Très bon réveil à toutes et à tous.
Et on va tout de suite aller prendre des nouvelles auprès d'Edgar Grolot de notre match de
Suède-Tunisie.
Suède-Tunisie.
À Monterrey.
Où est-ce qu'on en est, Edgar ?
Bonjour à toutes et à tous. 49e minute de jeu, 2-1 pour la Suède face aux Tunisiens, mais les Tunisiens qui peuvent encore y croire puisque donc ils ont réduit l'écart. Ils étaient menés 2-0, des buts d'Ayari et de Isaac côté suédois, mais Omar Rekik a réduit la marque juste avant la mi-temps. 50e minute de jeu maintenant, 2-1 pour la Suède face à la Tunisie. C'est le groupe F, c'est le même groupe que les Pays-Bas et le Japon qui ont fait match nul plus tôt dans la journée.
Merci beaucoup. Dans la nuit pour nous, hein, Edgar Grelot, plutôt dans la nuit, mais c'est comme ça.
Oui.
Vous ne manquez rien sur RMC, on est surmobilisé. On va vous retrouver très régulièrement, même s'il ne se passe rien. Et puis alors vous nous sonnez, vous n'hésitez pas s'il y a une action, s'il y a quelque chose à raconter en particulier. On suit la Coupe du Monde en direct sur RMC.
Et si vous voulez suivre ce match en intégralité, c'est sur la radio digitale 100% Coupe du Monde que vous retrouvez sur l'appli RMC que ça se passe. Il est 5h10.
Et Vincent est en ligne avec nous au 32-16 depuis Bourg-en-Bresse dans l'Ain. Salut Vincent.
Bonjour Vincent.
Bonjour Vincent et bonjour Géraldine.
Alors Mathieu et Élise, Géraldine est là.
Je suis là aussi.
Il y a Thibaut qui est là aussi. Mon cher Vincent, vous êtes prof de maths?
Oui.
Au collège?
Oui, oui.
Oui, vous avez des élèves qui vont passer le brevet.
Géraldine, parce que c'est elle qui va être importante là.
Ah bah là, ah, vous avez tout à fait raison.
Vous avez raison.
Oui.
Vincent, vous vouliez réagir au propos d'Edouard Geffray qui propose qu'il n'y ait plus du tout d'examen l'après-midi. Alors c'est déjà très très largement le cas, à part pour les bacs pro, oui, mais c'est terminé. En tout cas, ils ont commencé leurs épreuves bien plus tôt. Oui. Bref, Vincent, est-ce que c'est une bonne idée? Est-ce qu'il faut sanctuariser les examens le matin, puisque de toute façon, on aura chaud au printemps?
Alors, c'est une solution qui coûte pas beaucoup, qui coûte rien. Mais en fait, il envoie un signal. C'est-à-dire, il envoie que ceux qui ont les cours l'après-midi, là, je sais pas, je pense que Géraldine a vu les prévisions. En région lyonnaise, en fin de semaine, jeudi, vendredi, c'est 36 degrés.
Oui.
Donc, comment je vais pouvoir faire cours? Avec sachant qu'on est plutôt en fin d'année en plus, avec des élèves, il va faire, vous savez, j'ai calculé, avec 30 adolescents dans la salle, les après-midi, ça augmente de 1,5 à 2 degrés par heure de cours. Donc ça veut dire qu'en dernière heure de cours, quand on a 3 heures l'après-midi, il fait, ça a monté de 5 degrés depuis le début de l'après-midi.
Mais en fait, ils vont pas être concentrés, les élèves, quoi.
Ouais, on s'attaque aux examens, mais il y a un gros enjeu sur les cours et ça, on y touche pas, quoi.
Donc moi, je vois qu'une seule chose, parce que ça faut demander auprès de Géraldine, mais je pense que dans une dizaine d'années, on aura des vagues de chaleur dès avril, à mon avis, comme on a eu en mai, là. Et du coup, sachant qu'en plus, il y a un ministre qui voulait reconquérir au mois de juin, là, il n'est pas du tout reconquérir, en fait. Les élèves, notamment au lycée, ils n'ont pas beaucoup de cours, hein. Donc,
c'est une réalité. C'est en tout cas l'idée qu'il faudra anticiper, nous dit Vincent, parce que ce qu'on connaît là, on peut continuer de réagir coup par coup, mois par mois, mais sur le long terme, on va avoir chaud.
Il va falloir faire quelque chose au niveau des bâtiments, surtout.
Merci beaucoup, Vincent. Vincent, en direct de Bourg-en-Bresse, dans l'Ain, prof de maths. Oui, il y a ceux qui passent le brevet et le bac, hein, c'est la saison, mais il y a aussi tous les autres qui ont cours. Et les profs qui doivent donner cours avec des salles surchauffées, 5h12.
Et on reste avec Géraldine pour la solution. Conso, sur quoi on économise ce matin, Géraldine?
On gagne de l'argent ce matin grâce au partage.
Ah, c'est beau.
Et puis le choix de la rédaction avec Pierre Bourgès, on part dans les Deux-Sèvres qui devient aujourd'hui le 8e département où le permis de conduire est suspendu en cas d'usage du téléphone au volant. 500 permis ont été retirés depuis début janvier dans les 7 premiers départements. C'est un chiffre RMC, on en parle dans un instant, à tout de suite.
Jusqu'à 7h.
5-7, le Morning RMC.
Élise Dangean, Mathieu Béliard.
Il est 5h14 sur RMC et RMC Story.
RMC, le choix de la rédaction.
Le choix de la rédaction, c'est avec vous ce matin, Pierre Bourgès, correspondant d'RMC en Gironde. Bonjour Pierre.
Bonjour Mathieu, bonjour Élise, bonjour à tous.
Pierre, vous nous révélez aujourd'hui que depuis le 1er janvier, plus de 500 permis ont déjà été suspendus pour l'usage du téléphone au volant. C'est un chiffre RMC, chiffre qui devrait continuer d'augmenter puisqu'aujourd'hui les Deux-Sèvres deviennent le 8e département à mettre en place la suspension du permis de conduire en cas d'usage du téléphone.
Alors il est mis en cause le téléphone. Dans près d'un accident sur 10, selon la sécurité routière. Pierre, vous avez justement constaté que les automobilistes sont nombreux à utiliser le smartphone en conduisant.
La preuve, lors d'un contrôle routier que j'ai pu suivre près de Niort, il y a quelques jours, les gendarmes étaient positionnés sur un rond-point d'une zone commerciale. À ce moment-là, c'était surtout pour faire de la prévention. Mais à partir d'aujourd'hui, dans les Deux-Sèvres, les sanctions peuvent désormais tomber. Et ici, en moins d'une heure, 6 personnes ont été arrêtées pour l'usage du téléphone au volant.
Bonjour monsieur.
Bonjour.
Sur la moyenne nationale. Donc, je procède à votre contrôle par rapport à l'usage du téléphone.
Oui,
je vous ai dit. Ça entraîne une suspension du permis de conduire, d'accord? L'infraction du téléphone.
Dans les Deux-Sèvres aussi, je crois que c'était en Charente-Maritime.
Dans les Deux-Sèvres aussi, d'accord.
Le directeur du cabinet du préfet des Deux-Sèvres, Tony Chenet-Lloyd, était lui aussi présent.
Nous avons fait le choix dans le département des Deux-Sèvres de démarrer par une période de 15 jours. On se doute que la suspension d'un permis, ça n'est pas neutre, notamment pour des gens qui travaillent. L'objectif, c'est d'abord de faire prendre conscience aux automobilistes que la route est un espace partagé et qu'il est impératif d'être concentré, de ne pas être distrait par le téléphone.
Alors on le disait Pierre, hein, 8 départements ont mis en place cette sanction et on a déjà un premier bilan ce matin.
Oui, ce sont des chiffres que l'on vous révèle ce matin sur RMC. Depuis le 1er janvier, plus de 500 permis ont été suspendus. 21 dans le Pas-de-Calais, 38 dans le Lot-et-Garonne. Depuis le 1er mai en Charente-Maritime, ce sont aussi 55 permis qui ont été retirés. Et dans les Landes, premier département à avoir mis en place cette sanction, 400 permis ont été suspendus depuis le 1er janvier.
Alors vous avez d'ailleurs retrouvé l'un de ces automobilistes, Pierre ?
Oui, j'ai rencontré Claire, cette coach sportive landaise nous raconte comment elle a perdu son permis provisoirement en janvier dernier.
En milieu de chemin, mon support téléphone a cassé et à ce moment-là, j'avais besoin de mon GPS. Donc je tiens mon téléphone dans la main et en fait, j'entends la sirène qui me prévient que bah voilà, je me suis fait voir en tenant mon téléphone quoi, tout simplement.
Ce qui lui vaut ici une sanction, précisons-le, c'est bien d'avoir son téléphone en main. Résultat, les gendarmes la verbalisent, 135 euros d'amende, 3 points en moins et 2 semaines après son arrestation, elle reçoit un courrier. Son permis est suspendu pour 15 jours.
Si je dois être honnête, je me suis effondrée. J'en ris aujourd'hui, mais c'était un drame pour moi parce que mon activité me demande de me déplacer tout le temps. Et je suis à un endroit où il n'y a pas de moyen de transport. Et donc là, je me suis dit, c'est une catastrophe. Même 15 jours, c'est une catastrophe. J'ai utilisé mon vélo, j'ai utilisé mes petits pieds. Je me suis débrouillée comme j'ai pu. J'ai essayé de faire en sorte que mes rendez-vous soient plutôt en visio qu'en réel.
Bon, pas pratique en effet, même juste pour 15 jours Pierre, mais le téléphone au volant c'est quand même illégal, faut le rappeler. Hein.
Et surtout très dangereux, comme le rappelle Jean-Yves Lamant, président de la Ligue contre la violence routière.
Quand vous téléphonez au volant, vous avez des temps de réflexe qui sont multipliés par deux, donc des distances d'arrêt et de réaction qui sont multipliées par deux. Vous avez un champ de vision qui est réduit de 35% et vous avez aussi votre attention qui est réduit de 30%, y compris lorsque vous téléphonez en Bluetooth.
Lui salue cette sanction qui peut s'échelonner de 15 jours à 6 mois si d'autres infractions sont constatées en même temps. Il encourage même les autres départements à la mettre en place également.
Alors, verdict, est-ce que c'est assez dissuasif ?
Selon les chiffres des départements, oui, dans les Landes et en Charente-Maritime par exemple, depuis la mise en place de cette sanction, le nombre d'infractions constatées a diminué de 10 à 25%. Mais en croire Claire, notre automobiliste qui a aujourd'hui retrouvé le volant de sa voiture, pas vraiment. Elle l'avoue, elle est toujours autant addict à son portable.
Merci beaucoup Pierre. Posons la question le plus clairement du monde. Est-ce qu'il faut généraliser ça ? Ça fait 8 départements, on en a 100 dans le pays. Vous voyez aussi sur la route les ravages du téléphone au volant. Et puis vous-même, est-ce que c'est dissuasif ? Dites-nous, est-ce qu'il faut généraliser la suspension du permis en cas d'usage du téléphone au volant ? On vous attend au 3216 et sur le WhatsApp RMC au 06 12 424 424.
Il est 5h18 et c'est l'heure des choix de la bande avec les petites infos qu'on a dénichées dans la presse. C'est aussi l'heure d'accueillir en bonne et due forme Mathias Luguin. Ça y est, qui s'est installé autour de la table.
Salut
Mathias.
Bonjour à tous.
Allez, on commence avec toi Mathias.
Allez, allons-y. Avec ce matin une nouvelle fierté pour notre pays. Tiens, un titre un peu spécial qui vient d'être décerné à Blanche Mortemart. Blanche Mortemart, c'est une Parisienne de 28 ans. Elle vient d'être choisie comme pire photographe du monde. Une absence de talent qui lui a permis de remporter un concours organisé par la compagnie aérienne Icelandair. Très disputé, il y avait 127 000 candidats issus de 128 pays. Il a failli quand même 2000 heures pour trier tous les clichés ratés et sacrer le participant qui, je cite, ne devait avoir aucune compétence photographique, qui devait être mauvais en cadrage et surtout fréquemment déçu par ses propres photos. L'objectif de derrière ça, c'était de dénoncer les publications souvent trop parfaites ou retouchées des influenceurs. Le niveau était bas, mais vous avez quand même réussi à le dépasser, a dit le directeur commercial. Bon, Blanche, elle a réussi à gagner un joli chèque de 50 000 dollars et un voyage tout frais payé en Islande. Qu'est-ce qu'elle doit faire là-bas en Islande, selon vous ? Faire les plus belles photos pour la prochaine campagne pub de la compagnie.
Ah, on a tous ce selfie raté avec le doigt qui apparaît dans l'objectif, avec le cadrage.
Ça ne me rend pas moi, mais je connais les gens.
Le contre-joueur. Ah ouais, des noms peut-être.
Mon mari.
On ne donnera pas son nom parce qu'il
a les oreilles qui se sont réservées. Réserver son anonymat.
5h20 sur RMC. Est-ce qu'on retrouve Edgar Grolot?
Ah bah allez, on retrouve Edgar Grolot, je crois qu'il y a eu un but, non?
Ce jeu, l'heure de jeu à Monterrey, 3 buts 1 pour la Suède face à la Tunisie, le but de la star suédoise Victor Gyökeres, le joueur d'Arsenal, et les Tunisiens ils vont pouvoir s'en vouloir puisqu'il y a une énorme erreur du capitaine Elias Kiri qui a rendu la balle à Alexander Isak devant sa surface de réparation. Isak qui dévie sur Gyökeres et Gyökeres qui derrière termine et vient peut-être de tuer ce match. 2 buts avance donc pour la Suède face à la Tunisie, 3-1 après une heure de jeu à Monterrey.
Et on vous retrouve Edgar dès qu'il se passe quelque chose sur le terrain à Monterrey. Une heure de jeu, 3-1 pour la Suède. Il est 5h20 sur RMC. Les grands titres de l'actualité ce matin, Élise.
Et les autres résultats de ce mondial avec la victoire 1-0 de la Côte d'Ivoire sur l'Équateur cette nuit. Un nul de partout entre les Pays-Bas et le Japon. C'est la une ce matin. Les États-Unis et l'Iran parviennent à un accord pour mettre fin à la guerre au Moyen-Orient, annoncé hier soir par le Pakistan, confirmé par les deux parties et signé probablement vendredi en Suisse, alors que s'ouvre aujourd'hui le G7 à Évian. Le détroit d'Hormuz va pouvoir rouvrir, dit Donald Trump. Annonce qui a déclenché une chute immédiate des cours du pétrole. En France, coup d'envoi des épreuves écrites du bac. Avec la philo, 530 000 terminales vont plancher parfois sous de fortes chaleurs. Et ça va se corser au fil de la semaine, raison pour laquelle le ministre de l'Éducation propose d'organiser les épreuves uniquement le matin, y compris pour le brevet.
Il est 5h21.
RMC, la solution conso.
Et tous les matins, Géraldine arrive avec ses astuces conso. Aujourd'hui, vous êtes généreuse, Géraldine.
Ah oui, comme beaucoup de Français. Mais je dois vous avouer que c'est un petit peu intéressé quand même. Parce qu'être généreux et partager, en réalité, ça rapporte. Oui, aujourd'hui, on peut partager à peu près tout, hein, jusqu'à sa voiture ou sa maison. C'est facilité par des plateformes qui permettent de gérer notamment les histoires d'assurance, de paiement quand il y en a, mais c'est pas toujours le cas. Un petit exemple avec Home Exchange pour l'échange de maison. Il n'y a pas besoin d'argent. Il y a un système de points. Vous gagnez des points en prêtant votre logement, ce qui vous permet ensuite d'en louer à votre tour. Et sur les plateformes, vous avez un échange d'argent, les paiements sont bloqués jusqu'à la fin du partage. Comme ça, on est sûr que tout se passe bien pour tout le monde.
Et alors, on peut gagner combien, Géraldine, grâce au partage?
Alors, évidemment, ça dépend de ce que vous partagez, mais je peux déjà vous donner quelques petits exemples. Tiens, on parlait de Home Exchange. Sur une semaine de vacances, si vous passez par l'échange de maison, vous pouvez économiser jusqu'à 35% sur le budget global de votre semaine. Ouais, c'est pas rien. Si vous avez des objets que vous n'utilisez pas tout le temps, vous pouvez les louer. Imaginez, vous en louez 2 par semaine, ça peut vous rapporter 130 euros par mois sur Poppins, par exemple. Si vous louez votre voiture, vous pouvez gagner entre 200 et 800 euros par mois avec Get Around. Et évidemment, à l'inverse, si vous louez une voiture à un particulier, vous économiserez jusqu'à 30% hein, par rapport à une agence. Et puis, on n'oublie pas la plateforme Give, dont je vous parle régulièrement, qui permet d'obtenir des objets complètement gratuitement.
Bon, alors forcément, ça va attirer de plus en plus de monde, surtout en ce moment.
Bah oui, c'est vrai que ces plateformes collaboratives ont vu leur nombre d'utilisateurs augmenter de 60% en moyenne sur un an, selon le collectif des entreprises du partage. Alors si on regarde un petit peu plus dans le détail, c'est à Bordeaux qu'on est le plus généreux, qu'on partage le plus là-bas, c'est vraiment un mode de vie. Ensuite viennent Montpellier, Lyon, puis Paris. Finalement, être riche aujourd'hui, c'est plus posséder, mais c'est bien partager.
Et il est 5h23, merci. Vous utilisez...
C'est un peu bac philo, ça.
Ouais, hein. Est-ce que la richesse, c'est...
Moi, j'ai une question pour vous. Est-ce qu'on est vraiment généreux quand on a quelque chose à y gagner? C'est mon bac philo à moi.
La philo d'ailleurs.
Non,
c'est ce matin la philo. C'est philo ce matin, pardon. J'avais les températures dans la classe, mais j'avais pas le.
C'est ce matin.
Le sujet de la copie. Il est 5h23.
5h07.
5-7, le Morning RMC.
Élise Dangean, Mathieu Béliard.
Il est 5h25 sur RMC et RMC Story.
Il est né aux États-Unis et il a désormais son musée dans son New Jersey natal, Bruce Springsteen, consacré à Long Branch, au sud de New York, où il a grandi avec 3000 mètres carrés, rien que ça, qui retrace son histoire et sa carrière, le tout derrière une façade d'acier qui vient rappeler le passé industriel de la région. À 76 ans, la légende du rock reste modeste. Je ne suis que l'un des maillons d'une longue lignée de passeurs. Voilà ce qu'il dit dans un film diffusé par le musée. Il rend hommage à d'autres voix de la contestation aux États-Unis. Bob Dylan, Nina Simone, Kendrick Lamar, c'est l'histoire de la musique américaine qu'on retrace en fait ici. You can't start a fire. You can't start a fire. Le Bruce Springsteen Center for American Music porte le nom du boss, mais rend hommage à tous ses prédécesseurs. On y trouve par exemple une veste d'Elvis Presley, un saxophone de John Coltrane ou encore une guitare d'Eddie Van Halen. Coût de l'opération, $53 millions. Musée financé principalement par des dons de ses fans les plus fortunés, dont Donald Trump ne fait évidemment pas partie, puisque Bruce Springsteen est l'un de ses plus grands détracteurs aux États-Unis.
Pourfendeur. Enfin, je veux dire, ça aurait été quand même assez drôle de voir, de voir Trump méchoir.
Non, il préfère
payer,
le MMA.
À payer le
plus d'autres passions.
5h27 sur RMC. On joue au mot caché d'abord.
Ben oui, on joue au mot caché, un mot qui sort de l'ordinaire, qu'on va prononcer. Ça n'est pas encore le cas, mais donc concentrez-vous.
J'ai essayé de le placer là, mais tu m'as parlé dessus. Parce que c'est un gros raté.
Ah, mais je n'ai même pas entendu. Ouais, il va falloir qu'on se concentre tous, moi y compris. Si vous l'identifiez, vous envoyez mot au 732-16 et vous remporterez peut-être votre montre Kelton et elle est très belle.
75 centimes par SMS, 3 SMS maxi.
Jouez au mot caché sur RMC avec Kelton, la marque icône pop de l'horlogerie française. Faites-vous plaisir sur kelton.fr.
Allez, il revient tout à l'heure en direct dans Apolline Matin, mais on se met tout de suite dans l'ambiance. C'est le meilleur d'Arnaud Demange. C'est une grosse période pour les ados d'ailleurs en ce moment, parce qu'il y a la Coupe du Monde, mais il y a aussi le bac. Hier, c'était le début des épreuves de français. Heureusement que les matchs n'avaient pas encore commencé, parce que tu révises ton Becherel toute la journée et le soir, tu entends les joueurs. Nous, dans l'équipe, on croit au jour d'aujourd'hui que l'important, c'est que c'est nous qu'on a gagné la victoire. C'était bien de taper des points sur les i. À 1-0, rien n'a été écrivé. Et voilà, le coach, il a fait la causerie à la mi-temps et c'est pas tombé dans l'orteil d'un sourd. Après, je crois que le prochain match, pour pas qu'il ait perdu, faille qu'on s'entraîne à l'entraînement et qu'on mettrait deux fois les bouchées doubles, histoire de pas rester sur le carrelage. Tu vas te coucher là-dessus et derrière, tu dois commenter du Balzac pour ton bac, t'es mal barré. Aujourd'hui, c'est l'épreuve de maths. Mathieu, qu'est-ce que ça fait, 1 et 1 ? Prolongation ? Non, n'importe quoi. C'est raté. Zéro. Nul.
Arnaud, qu'on retrouve tout à l'heure en direct à 7h20 et à 8h20 dans Apolline Matin. Mais tout de suite, c'est l'heure de regarder le temps.
Attends, on va faire un petit tour à Monterrey. Pardon, moi je suis à fond. J'ai pas lâché la Coupe du Monde du week-end, je peux vous le dire. Edgar Grolot, ça donne quoi, Suède-Tunisie ?
68e minute de jeu, toujours 3-1 pour les Suédois face à la Tunisie.
A tout de suite, Edgar Grolot, qu'on retrouve très régulièrement évidemment pour suivre ce match Suède-Tunisie, 3-1. Donc, la
et moi, j'ai pas lâché du week-end mon appli météo parce qu'il va faire beau, il va faire chaud et Géraldine nous le confirme ce matin.
Ah, ça va être une semaine qui va être très très chaude. Évidemment, on va s'intéresser aux températures avec les 20 degrés qui sont dépassés cette nuit dans le sud-ouest, températures qui sont déjà en hausse.
Vous avez des pauses fraîcheurs à la radio aussi.
Cet après-midi, je crois que ça s'appelle la pub. 21 degrés à Brest cet après-midi contre 30 hier. 26 à Strasbourg, 30 à Paris, à Lyon, à Clermont-Ferrand également, 33 à Nantes, à La Rochelle, 34 à Bordeaux, jusqu'à 35 à Perpignan, Montpellier, avec beaucoup de soleil. On peut avoir quelques orages sur le nord-ouest ou encore sur le relief. Ce sera pas grand-chose. Demain, il y aura très peu de changements et puis rapidement, les températures vont grimper, notamment mercredi, jeudi, où là, on va vraiment rentrer dans l'épisode de canicule qui devrait se poursuivre au moins jusqu'en début de semaine prochaine.
Il est 5h30 sur RMC.
5-7, le Morning RMC.
Et c'est l'heure de retrouver Solène Gardré pour un nouveau journal. Bonjour Solène.
Bonjour, bonjour à tous. Enfin, un accord trouvé entre l'Iran et les États-Unis. Un jour symbolique pour Donald Trump qui fêtait son anniversaire hier. Début du G7 à Evian. Aujourd'hui, on va vous expliquer les enjeux de ce sommet. Et puis plus qu'un jour à attendre avant l'entrée en lice des Bleus en Coupe du Monde.
Et plus de trois mois après le début de la guerre, un accord de paix enfin trouvé entre les États-Unis et l'Iran.
Et oui, on l'attendait ce week-end. Confirmation hier soir du médiateur pakistanais qui déclare que les deux parties ont décrété l'arrêt immédiat des opérations militaires sur tous les fronts, y compris le Liban. Un accord obtenu le jour de l'anniversaire de Donald Trump. Il fêtait ses 80 ans hier. Alors Antoine Hollard, correspondant à Washington pour RMC, le président américain fait de cet accord une victoire personnelle.
Oui, on peut dire que le timing de cette annonce est parfait pour Donald Trump. Pile le jour de ses 80 ans, il ne pouvait pas rêver d'un meilleur cadeau d'anniversaire. Hier soir, il a donc pu profiter de la grande fête organisée à la Maison Blanche avec ce gala de MMA, un sport de combat pour projeter une image de force et de puissance. Tout cela serait tombé complètement à plat s'il était resté embourbé dans des négociations sans fin. Alors le président n'a pas donné beaucoup de détails sur ce deal, mais il annonce que le détroit d'Hormuz sera rouvert dès vendredi, dès la signature de l'accord, et qu'ensuite... Eh bien, le pétrole va couler à flot. Ça, c'est évidemment très important pour lui. Il a promis aux Américains que les prix à la pompe allaient rapidement baisser une fois la guerre terminée. Trump, qui se montre aussi triomphant, il parle d'un deal formidable qui apportera la paix et la sécurité dans la région. De nombreux présidents ont essayé. Ils ont tous échoué avant moi, dit-il. La réalité est pourtant bien plus modeste. Sur le nucléaire, rien n'est encore réglé et tout est renvoyé à des négociations ultérieures.
Donald Trump qui est attendu aujourd'hui pour le G7 à Évian, à la frontière suisse. Le sommet qui regroupe les 7 puissances mondiales se tient jusqu'à mercredi. Bien sûr, cet accord de paix sera au cœur des échanges et il faudra s'assurer de la réouverture du détroit d'Hormuz dans la durée. C'est ce qu'a déclaré Emmanuel Macron hier. Les explications d'Inès Zegloul.
Avec une question, une fois rouvert, comment sécuriser le détroit d'Hormuz ? Une libre circulation des navires qui pourrait être garantie par une coalition maritime neutre, c'est-à-dire loin du giron américain et iranien. Ça, c'est une proposition faite par la France qui se disait elle-même prête, aux côtés des Britanniques, à déployer une mission de déminage dans les eaux du détroit. Autre défi à Évian, ramener Donald Trump à la table des négociations de paix entre l'Ukraine et la Russie. Volodymyr Zelensky a d'ores et déjà préparé le terrain et prévoit lors de sa venue à Évian de s'entretenir avec le président américain. Enfin, priorité initiale affichée par Emmanuel Macron, résorber les déséquilibres économiques mondiaux en pleine tension commerciale avec la Chine.
Et RMC sera en direct d'Évian dans les prochaines éditions pour suivre le début de ce G7.
C'est un fleuron français de l'industrie qui est menacé.
Et dans le Loiret, l'usine Duralex cesse son activité à partir d'aujourd'hui. Placée en redressement judiciaire il y a 15 jours, le four de l'usine doit être mis en veille et la production sera stoppée pendant 15 jours. Plus d'assiettes ni de verres de cantine ne seront produits, Victor Johannin.
Cette pause va permettre de faire des économies sur la matière première, car l'objectif est de soulager la trésorerie de l'usine en grande difficulté. Voilà pourquoi la direction demande aussi aux salariés volontaires de prendre une semaine de congés payés, congés qui seront pris en charge par le régime de garantie des salaires. Les équipes restantes vont concentrer leur activité sur l'emballage de verre et de vaisselle, aujourd'hui stockés en attente de livraison. Il y a l'équivalent de 1,5 million d'euros de commandes en retard, autant d'argent frais qui pourrait rentrer dans les caisses. Des mesures d'urgence pour permettre à la SCOP de tenir jusqu'au 2 juillet, date à laquelle le tribunal des affaires économiques d'Orléans recevra ses dirigeants pour faire un état des lieux. La situation est surveillée de près par Bercy. À cause d'erreurs de gestion, le mur se rapproche, regrette l'entourage du ministre de l'Industrie.
C'est le début des épreuves écrites du bac aujourd'hui. 530 000 élèves de terminale doivent passer ce matin l'épreuve de philosophie, avec une attention particulière cette année à l'orthographe. C'est ce que martèle le ministre de l'Éducation depuis plusieurs semaines.
Ministre de l'Éducation qui propose également de mettre toutes les épreuves du bac et du brevet le matin plutôt que l'après-midi en raison des fortes chaleurs. Vous nous dites ce que vous en pensez ce matin au 32-16, notamment si vous avez des ados à la maison qui passent des épreuves en ce moment. On en parlera avec Sophie Vénétité du SNES FSU à 7h10 qui sera avec Apolline.
Et il ne reste plus beaucoup de temps à patienter avant l'entrée en lice des Bleus en Coupe du Monde.
RMC, radio officielle de la Coupe du Monde de la FIFA 2026.
Les Bleus qui affrontent le Sénégal demain à 21h. Et la question, Fabrice Hawkins, c'est bien quelle équipe va aligner Didier Deschamps ?
Le staff de l'équipe de France doit composer avec un cas particulier pendant cette Coupe du Monde. William Saliba, le défenseur central, a une gêne au dos qu'il traîne depuis 2 mois. Depuis le début de la préparation, le champion d'Angleterre a un programme spécifique. Il ne fait pas tous les exercices avec ses partenaires. Didier Deschamps veut le gérer au mieux pour qu'il puisse être à 100% demain contre le Sénégal. Et sauf problème de dernière minute, il va débuter en défense centrale avec Dayot Upamecano. Dans la continuité de ce que les Bleus préparent depuis le début de la saison, Didier Deschamps va aligner 4 offensifs. Le capitaine Kylian Mbappé, évidemment, mais aussi Michael Olysee. Et bien sûr, le ballon d'or Ousmane Dembélé. La dernière place devrait revenir à Désiré Doué plutôt qu'à Bradley Barcola. Très performant contre l'Irlande du Nord lundi, Doué a confirmé qu'il pouvait être déterminant dans cette équipe.
Et cette nuit, la Côte d'Ivoire a vaincu l'Équateur 1-0. Sans surprise, l'Allemagne a gagné contre le Curaçao 7-1. Suède-Tunisie, c'est en cours 3-1 pour le moment. On fait le point régulièrement avec l'un de nos envoyés spéciaux, Edgar Grolot.
Oui, juste après ce journal. Et puis c'est Isaac Del Toro qui a remporté le Tour d'Auvergne-Rhône-Alpes hier.
Un tour marqué par l'abandon de Paul Sexas après sa grosse chute samedi, blessé aux mains, aux coudes et aux genoux. Le coureur de 19 ans a finalement abandonné après une trentaine de kilomètres de course. Mais à 3 semaines du Tour de France, son équipe se veut rassurante. Maria Azé, priorité au repos pour le prodige français.
À l'arrivée, tout le monde attend des nouvelles de Paul Sexas.
Moi, je me fais pas de soucis.
Aurélien Paré-Peintre, son coéquipier.
Ça sert à rien d'insister, transpirer sur les plaies, voir partir en stage d'ici la semaine prochaine. Donc, c'est bien qu'ils prennent tout de suite ces jours pour reposer. C'est vraiment que des plaies et des courbatures. Donc, avec les soins de l'équipe, ça va vite être oublié.
Avant d'abandonner à 84 km de l'arrivée, Paul Sexas a tenu à dire quelques mots à la radio pour son équipe, notamment Nicolas Prodhomme.
Remercier le taf qu'on a fait toute cette semaine. Il n'y a pas le feu au lac. L'objectif, c'était pas cette semaine. C'est une course de préparation et rendez-vous en juillet.
Malgré la chute, le bilan reste positif pour son directeur sportif Julien Jurdi.
On apprend dans la douleur et je pense que c'est malheureusement un bel exercice pour l'ensemble du groupe, que ce soit en particulier Paul qui est un jeune coureur. On sait qu'un jour il y aurait des pépins. Voilà, la chute est arrivée. Ça va servir effectivement et je le pense rapidement sur les routes du Tour.
Paul Sexas va désormais se reposer pendant quelques jours chez ses parents avant de repartir en stage et en reconnaissance des dernières étapes du Tour de France dès la semaine prochaine.
Enfin, en rugby, le Stade français décroche son ticket pour les demi-finales du top 14 après sa victoire 45-5 contre La Rochelle.
Le quintet Solène, c'est sur l'hippodrome de Paris-Longchamp à 18h30.
Et le pronostic de la Dream Team des courses RMC, leur favori, est le numéro 10, Stangeli, leur outsider, et le numéro 13, El Pequeño.
Merci Solène, c'était le journal. Vous êtes sur RMC.
RMC, radio officielle de la Coupe du Monde de la FIFA 2026.
Et on retrouve tout de suite Edgar Grolot pour ce match Suède-Tunisie. On est toujours à 3-1, Edgar.
Oui, après 77 minutes de jeu, et malheureusement pour les supporters tunisiens qui nous écoutent, on voit mal comment les Tunisiens pourraient revenir dans ce match. Ils ont été dominés quasiment de bout en bout et surtout on sent des Suédois très solides défensivement, même s'ils avaient encaissé un but en fin de première période. 3-1 donc toujours pour la Suède face à la Tunisie. À l'après 78 minutes de jeu, on est dans le groupe F de la Coupe du Monde et donc pour l'instant la Suède qui prend la tête de ce groupe F devant le Japon, les Pays-Bas et donc la Tunisie.
Et justement, vous avez raison Edgar Grolot de le souligner, vous êtes supporter de la Tunisie, vous avez mis le réveil là ce matin pour suivre ce match dès 4h du matin. Appelez-nous, franchement, un petit message sur le WhatsApp ou alors un coup de fil au 32-16.
Et c'est le cas d'Ali ce matin. Bonjour Ali.
Bonjour, salut Ali, salut Mathieu.
Ali, réveillé tôt, tous les matins, avec RMC.
Eh ben là, j'en suis à mon 12e match de la Coupe du Monde, hein, si c'est la parenthèse.
Ah. Donc vous suivez Suède-Tunisie là en ce moment ?
Ah, l'objectif, c'est les 104 matchs de la Coupe du Monde.
Ah, il faut bien qu'il y ait un intérêt à travailler la nuit.
Voilà, c'est ça, faut bien qu'il y ait des intérêts.
Bah, ce qui vous inquiétait, Ali, vous, c'est les températures, parce que vous avez des gamins quoi, au collège ?
Non, moi, ils sont en primaire.
À l'école primaire.
Primaire,
on parle du ministre de l'Éducation nationale et des examens, mais on aurait tendance à oublier qu'il y a plein d'autres enfants qui continuent d'aller à l'école.
Ouais, c'est un peu ça qui me fait peur, c'est qu'on a l'impression qu'on a oublié une certaine partie des écoliers. Et comme j'ai dit il y a 3 semaines, j'étais passé chez vos confrères d'Estelle Denis. Moi, je me refusais de laisser mes enfants aller à l'école l'après-midi dans des salles de classe où on va frôler les peut-être 40 degrés dans des salles de cours avec 28-30 élèves dans les salles. Je vois pas l'utilité. Pour moi, c'est de la maltraitance.
Donc, fin de semaine, vous mettez pas vos enfants à l'école, Ali ?
J'en vois pas l'utilité. Ça sert à quoi de les enfermer l'après-midi ? On sait très bien que déjà, en temps normal, on est moins attentif. Mais là, en plus, avec de la chaleur, voilà, après, moi, j'ai...
Mais par contre, Ali, quand vous avez fait ça au mois de mai, personne ne vous a embêté parce que vous n'aviez pas mis les gamins pendant la canicule.
On m'a fait des réflexions. Ah ouais ? Bah, j'ai eu quelques retours après de professeurs qui m'ont fait des réflexions sur les réseaux. Mais je rappelle que l'école n'est pas obligatoire, mais l'instruction, oui.
C'est deux choses différentes. Mais au-delà de ce débat-là, Ali, c'est une question de... Ça dépend des établissements, en fait. Il y a des endroits où il fait chaud, des endroits où il fait moins chaud. On a le même débat en hiver, avec des salles de classe qui parfois sont pas chauffées.
Mais le souci, c'est, je me pose la question, là, il y a 3 semaines qui sont passées entre la première vague de canicule et maintenant, et on n'a toujours pas anticipé, les salles sont toujours pas climatisées, on parle des autres pays, mais les autres pays anticipent en faisant faire cours un petit peu plus tôt le matin, Et là, encore une fois, on a l'impression qu'on tombe des nues et qu'on découvre la chaleur. Va falloir s'habituer, les années passent et les chaleurs augmentent.
Merci Ali. Va falloir s'habituer, va falloir s'adapter et apprendre à anticiper. C'est un peu ce qui revient de vos appels et de vos messages ce matin au 32-16. Merci Ali, vous continuez à réagir ou alors à nous écrire sur le WhatsApp RMC, le 06 12 424 424.
Il est 5h41 et c'est l'heure du mondial de Virginie. Bonjour Virginie.
Bonjour tout le monde, et j'ai une première bonne nouvelle avant France-Sénégal demain, figurez-vous.
Ça y est,
on prend les bonnes nouvelles. Et puis près d'une personne âgée de plus de 60 ans sur 6 est victime de maltraitance dans son environnement familier chaque année. Alors, quels sont les signaux qui doivent nous alerter? Alain Monteux est le président de Tunstall Vitaris, numéro 1 de la téléassistance. Il va nous répondre dans un instant. À tout de suite.
5-7, le Morning RMC.
Élise Dangean, Mathieu Béliard.
Il est 5h43 sur RMC et RMC Story.
RMC,
le mondial de Virginie.
Et on est en plein dans le premier tour de cette Coupe du Monde, Virginie. 4 matchs encore depuis hier soir, mais on va le dire, on pense déjà à demain forcément et à France-Sénégal.
Et on connaît l'arbitre qui va officier pour ce match d'entrée de la France dans cette Coupe du Monde, c'est l'Australien Alireza Fagani. Vous allez me dire, oui, bon, et alors? Mais alors, on le connaît bien, cet arbitre, c'est l'homme qui tenait le sifflet à ce moment-là.
Second poteau, Pavard. Oh oh,
on est obligé une fois de temps en temps quand même de se réécouter. Ça, c'est pas un bon souvenir, ça, peut-être. On va rappeler 2018, le 8e de finale de l'équipe de France contre l'Argentine. La France menée qui revient à 2-2 grâce à Benjamin Pavard, je crois, sur la route de la victoire finale. Donc on l'aime bien, cet arbitre, oui, on l'aime bien.
Alors, il y a quelques polémiques d'arbitrage depuis le début de ce mondial.
C'est presque rassurant. On vit une vraie Coupe du Monde sur le terrain avec des bugs techniques, comme lors du match Qatar-Suisse dans la nuit de samedi à dimanche, à pénalty accordé aux Suisses. Mais est-ce qu'il y avait hors-jeu avant? Oui, c'est promis, dit la FIFA, mais on n'aura jamais les images de la VAR parce qu'il y a eu une panne. C'est ballot, vu la méfiance générale. Hein. Une main écossaise oubliée contre Haïti. Pas de carton pour Achraf Hakimi pour sa semelle contre Vinicius Junior lors de Brésil-Maroc. C'est bon, les gars, c'est bien le mondial. On peut s'écharper au sujet de l'arbitrage. Il y a au moins quelques petites choses qui ne changent pas.
Et le Maroc remercie la France.
De rien, ça fait plaisir. Enfin bon, on n'aurait pas non plus été totalement contre voir Ayoub Bouadi en bleu. Hein. Mais le milieu de terrain de Lille, surdoué de 18 ans, a choisi le pays de ses parents après avoir été dans toutes les équipes de France de jeunes, et il en a évidemment bien le droit. Il a surtout épaté la planète entière contre le Brésil. 90% de passes réussies sur 50 tentées, la plupart des duels gagnés. On aurait dit qu'il jouait sa 4e Coupe du Monde. Il n'a suffi que d'un match pour que les plus grands clubs d'Europe lui fassent les yeux doux. Le PSG, Arsenal, le Real Madrid et le Bayern Munich. Rien que ça.
Rien que ça. L'équipe d'Angleterre est maudite dans cette Coupe du Monde.
Alors, les Anglais n'entrent en lice que mercredi, mais ils ont déjà eu quelques frayeurs. On va répéter tout ça. Il y a eu la fusillade près de leur camp de base où ils n'étaient pas encore. Il y a eu les répliques d'un séisme près d'Orlando où ils jouaient un match de préparation. Samedi, une partie de leur matériel d'entraînement, des ballons et des chaussures, a été volée alors qu'il était en cours d'acheminement vers leur centre à Kansas City. Et voilà qu'hier, les Anglais ont dû se confiner dans leur hôtel à cause d'une alerte tornade dans la région. Ça commence à faire beaucoup quand même, alors que ça n'a pas encore commencé pour eux.
Il leur faudrait peut-être un porte-bonheur ou une mascotte comme les Mexicains.
Moi, je vois plus que ça, oui, effectivement. C'est désormais le supporter le plus connu de l'équipe du Mexique. C'est un canard, il se nomme Merlin, un vrai, hein, c'est pas une peluche, il est habillé avec le maillot de l'équipe nationale et il déambule dans la rue avec des chaussettes aussi, hein, pour ne pas se blesser, tout ça sous les hurrahs de la foule mexicaine. Alors Merlin, c'est la nouvelle star des réseaux sociaux et sa propriétaire voit en lui quelque chose de magique, d'où le nom Merlin, le magicien. Tout est bon pour encourager son équipe, hein,
pourquoi pas. On va finir en musique.
Mais oui, c'est quoi cette musique qui accompagne les joueurs à leur entrée sur les terrains de la Coupe du Monde? Je vous fais un blind test ou pas?
Comment ça se passe?
Alan Parsons Project, le titre Sirius qui date de 1982, qui revient sur le devant de la scène. Alors ok, c'est une super musique d'entrée, tout ça, mais on arrête là pour 1982, on est d'accord? Personne n'a envie de revivre Séville.
Non.
On s'arrête.
On peut aller plus loin aussi, je crois que c'est la musique d'entrée des Bulls, non?
Oui, exactement, Michael Jordan, du temps de Michael Jordan. Exactement.
Je voulais pas faire le mariole, mais j'ai pas pu me retenir. Merci, je ne file pas. Il est 5h46, je vous rappelle qu'on joue ce matin. À tout moment dans le morning, on prononce un mot qui sort de l'ordinaire. Vous envoyez, si vous l'identifiez, vous envoyez mot par SMS au 732-16 pour gagner la montre Kelton, marque icône de l'icône pop de l'horlogerie française qui fête ses 70 ans cette année. Un rendez-vous parisien pour les fans d'Elton John ce matin, mais alors pas un concert cette fois, une autre facette de l'artiste qui se... s'expose à nous, à la galerie du Jeu de Paume. Ce sont les collections de photos d'Elton John que vous pourrez admirer, qu'il veut partager. Le chanteur collectionneur affirme posséder plus de 7000 œuvres. 300 seront exposées à Paris, 90 photographes internationaux, des photos d'art, des portraits, de mode, du photo-reportage avec des clichés qui racontent la lutte pour les droits civiques aux États-Unis, le 11 septembre, la guerre en Ukraine, à Gaza. La part belle aussi au combat pour les droits des homosexuels, avec de la photo érotique aussi. 300 clichés affichés pour l'exposition. Fragile beauté, désir, mode, célébrité, photojournalisme, je vous l'ai dit, question d'identité. Des tirages qui vont des années 50 à aujourd'hui. C'est au musée du Jeu de Paume jusqu'à la fin de l'été. Et on va partir du côté de Monterrey, au Mexique, retrouver Edgar Grollo, puisque ça bouge sur le terrain. On était sur Yellow Brick Road, ils sont en jaune, les Suédois, ils ont le vent dans le dos.
Oui, 4 buts à 1 pour la Suède face à la Tunisie. Les Suédois qui aggravent le score. Et peut-être là avec Alexander Isak. Non, il n'a pas réussi à mettre le 5e quand même. 88e minute de jeu, donc 4-1. Le but il y a quelques instants de Mathias Svanberg sur un coup franc, le milieu de terrain qui est entré il y a quelques minutes, qui a repris au premier poteau et qui vient définitivement tuer ce match, puisque maintenant les Suédois ont 3 buts d'avance et qu'il reste 3 minutes à jouer dans le temps réglementaire.
Merci Edgar Grollo. Vous ne manquez rien, rien de cette Coupe du Monde sur RMC, radio officielle de la Coupe du Monde de la FIFA. Il est 5h48. L'heure de retrouver les grands titres de l'actualité.
Et les autres résultats de ce mondial et de la nuit, la victoire 1-0 de la Côte d'Ivoire sur l'Équateur et un nul 2 partout entre les Pays-Bas et le Japon. La une ce matin, c'est les États-Unis et l'Iran qui parviennent à un accord pour mettre fin à la guerre au Moyen-Orient, annoncé hier soir par le Pakistan, confirmé par les deux parties et signé probablement vendredi en Suisse. Et puis durcir les lois contre les casseurs, c'est la volonté du Premier ministre Sébastien Lecornu. Après les débordements en marge de la victoire du PSG en Ligue des Champions, le Premier ministre veut présenter un texte dès juillet, avec notamment l'idée de tenir pour responsable une personne présente dans un attroupement, peu importe son implication.
Il est 5h49.
RMC, à votre service.
Près d'une personne âgée de plus de 60 ans sur 6 est victime de maltraitance dans son environnement familier chaque année. C'est ce qu'estime l'OMS, l'Organisation Mondiale de la Santé. Un phénomène qui reste pourtant difficile à détecter.
Alors en cette journée mondiale de sensibilisation à la maltraitance des personnes âgées, on accueille Alain Monteux. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes le président de Tunstall Vitaris, numéro 1 de la téléassistance en France. D'abord, de quoi on parle quand on évoque la maltraitance chez les seniors? Est-ce que c'est uniquement physique? Dans quel cadre ça se passe?
Ça peut être plein de choses. On parle beaucoup du domicile. Ce sont des personnes qui vont vous appeler parce que vous allez repérer des signaux faibles. Une personne qui vous appelle pour aller se coucher, pour vous demander l'heure, qui va changer les moments où elle vous appelle, qui va vous allez entendre des cris quand vous allez la voir au téléphone, des cris derrière d'une aide à domicile ou d'un aidant. Ce sont tous ces signaux faibles qui vous permettent de détecter une situation de maltraitance. Une personne qui vous dit qu'elle ne boit plus, qu'elle ne mange plus, qu'elle est enfermée chez elle, qu'on lui a pris sa carte bleue. C'est tout ça, c'est maltraitance. C'est pas uniquement du physique, c'est aussi du harcèlement. Tous ces petits signaux vous permettent de détecter ce genre de situation.
Et alors, la téléassistance, elle est perçue comme un simple bouton d'alerte, si j'ose dire. Vous dites que ça peut aussi être un outil de prévention.
Oui, exactement. C'est-à-dire que plusieurs choses. La téléassistance, on va être capable de détecter au téléphone tous ces signaux faibles. On peut mettre des capteurs à domicile qui vont vous permettre de voir que vous levez à une autre heure, que vous n'avez pas ouvert le frigo, que vous n'êtes pas sorti. Donc tous ces petits signaux faibles, avec un peu d'intelligence artificielle, l'humain derrière va être capable de détecter une situation anormale, d'appeler la personne et de voir si il y a quelque chose d'anormal ou pas. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on fait plus d'un million d'appels sortants par an auprès de nos bénéficiaires pour prendre soin d'eux, pour savoir comment ça va et pour détecter des situations anormales. J'ai tendance à dire que la téléassistance, on n'est pas à domicile, mais on est un peu le seul lien pour des personnes qui sont totalement isolées, et des fois on est le seul hors contact de leur journée, les seules personnes avec qui elles vont parler.
Et alors justement, vous êtes en contact avec des milliers de seniors chaque jour, qu'est-ce que vous apprenez de ces échanges au quotidien? À quoi ressemble le quotidien de ces seniors-là?
Ben, il faut pas faire de généralité, mais vous avez en France 750 000 personnes en situation d'isolement, de mort sociale, qui n'ont personne à qui parler. Encore une fois, avec qui on va être la seule personne avec qui on va parler. Elles vont parler de leur journée. Et ça, c'est hyper important. Les enfants sont loin, ont changé de ville, vont travailler ailleurs, ont disparu. Il y a des personnes qui viennent à domicile, mais souvent, elles paraissent un peu étrangères. C'est pas des personnes à qui on va se confier. Donc, c'est important de pouvoir échanger de leur vie de tous les jours, d'une passion. Et c'est ça qui va remettre en lien, remettre du lien social et permettre de sortir un peu des situations d'isolement et détecter des situations de maltraitance.
Quel est le rôle des soignants, des aidants là-dedans?
Elle est hyper importante parce que, vous voyez, une aide à domicile qui vient vous voir trois fois par semaine, elle va être capable de détecter des choses que jamais un médecin traitant ne va pouvoir voir. Donc ce qui est important, c'est de pouvoir échanger cette information, de la partager. C'est pour ça que la téléassistance travaille beaucoup avec les aides à domicile, travaille avec toutes les personnes qui vont à domicile pour partager l'information et être capable de prendre tous ces signaux faibles et en faire un signal fort. Ou un signal fort, c'est peut-être mieux. Et ça, c'est hyper important. Et comment aussi on peut aider toutes ces personnes? Donc on a, nous, une cellule d'assistance psychologique qui traite, qui parle avec les abonnés, ouais, qui parle avec les bénéficiaires, qui parle avec les personnes âgées, mais qui parle aussi avec les aidants.
Avec l'entourage.
Exactement. Qui peuvent avoir souvent qui sont perdus. Et souvent, la maltraitance, elle vient d'ailleurs des personnes proches parce que, à un moment, vous êtes fatigué, vous êtes exténué, vous en sortez plus et vous avez des comportements un peu anormaux que vous-même, vous ne pouvez pas imaginer. Donc, c'est important aussi de leur parler, de leur ouvrir, en l'occurrence, nous, notre cellule d'assistance psychologique, pour pouvoir leur apporter des solutions et pour pouvoir les aider.
Merci Alain Monteux, président de Tunstall Vitaris, numéro 1 de la téléassistance en France. Merci beaucoup d'être venu nous expliquer ce contexte aussi dans cette journée. Vous pouvez peut-être d'ailleurs réagir au 32-16, vous êtes reconnu, intéressé directement. On vous attend ce matin, c'est la journée mondiale de sensibilisation à la maltraitance des personnes âgées. Il est 5h54.
Et c'est l'heure du meilleur de l'historien d'Apolline Matin, Arthur Chevalier.
5-7. Le Morning RMC.
Et à tout moment en podcast sur rmc.fr, l'appli RMC et toutes les plateformes.
Arthur Chevalier, l'historien d'Apolline Matin. Bonjour Arthur.
Bonjour Mathieu.
Une audience pour l'histoire a eu lieu hier. La Cour de révision s'est penchée sur l'un des plus gros scandales judiciaires de ces 80 dernières années, l'affaire Miss Etienneau.
Oui, Miss Etienneau, c'est le nom de deux hommes reconnus coupables de meurtre en 1946. Alors, ils ont toujours plaidé leur innocence. Aujourd'hui, ils sont morts, mais leurs enfants ont pris le relais pour les faire réhabiliter par la justice. Je suis devant vous pour laver l'honneur de mon père. C'est ce qu'a déclaré hier le fils de Gabriel Etienneau, un des deux accusés. C'est un événement puisque depuis 1945, seulement 11 affaires ont eu le droit à un procès en révision.
Mais alors, de quoi s'agit-il?
Alors, tout commence par un drame, Mathieu. Le 31 décembre 1946, on retrouve un corps criblé de balles dans un étang de Saint-Michel-en-Brenne. Saint-Michel-en-Brenne, c'est une petite commune de l'Indre. Ce corps, c'est celui d'un garde-chasse qui s'appelle Louis Boitard. Une enquête est ouverte et rapidement, on accuse un groupe de chasseurs qui auraient été contrôlés par ce garde-chasse, donc la victime. C'est ce contrôle qui aurait mal tourné. Les chasseurs se seraient énervés, ils auraient ensuite abattu le garde-chasse. A priori, tout ça tenait à peu près debout.
Et du coup, la police arrête les chasseurs?
Exact. Et après quelques jours, les chasseurs passent aux aveux. En reconnaissant le meurtre du garde-chasse, les coupables désignés s'appellent Raymond Miss et Gabriel Etienneau. Ils sont incarcérés à la prison de Châteauroux. Et alors qu'on pensait l'affaire close, l'impensable se produit. Les chasseurs reviennent sur leur déclaration avec une révélation fracassante. Ils prétendent avoir été torturés par les policiers pour qu'ils avouent leur crime pendant l'enquête. Un crime dont ils se disent finalement innocents.
Mais en 1950, la justice va quand même les condamner.
Absolument. Elle va les condamner à 15 ans de travaux forcés, c'est pas rien. Mais c'est pas fini, puisque l'affaire fait tellement de bruit que l'opinion publique, les médias se mobilisent. Du coup, ça remonte au sommet de l'État. Le garde des Sceaux de l'époque ouvre une enquête qui va notamment confirmer que les accusés ont bel et bien été frappés par les enquêteurs pendant leur interrogatoire. Il y a aussi eu beaucoup d'autres dysfonctionnements. En tout cas, tout ça, c'est assez d'éléments pour que le président de la République de l'époque, René Coty, accorde une grâce aux condamnés. C'était en 1954. Alors attention, cette grâce leur permettait de retrouver leur liberté, mais pas d'être innocentés.
Alors Raymond Miss et Gabriel Etienneau vont ensuite essayer de prouver leur innocence.
Ils vont même, Mathieu, y consacrer toute leur vie. De 1980 à 2015, 6 requêtes vont être déposées pour que leur procès soit révisé. En vain, puisqu'il y a eu 6 refus nets. Gabriel Etienneau meurt en 2003, Raymond Miss en 2009. C'est ensuite leurs familles qui reprennent le flambeau. Et finalement, en février 2026, la justice accepte la révision du procès. L'audience a donc eu lieu hier. Le résultat sera connu le 2 juillet.
Histoire incroyable. Merci Arthur Chevalier de l'avoir partagé.
Il est 6h01 sur RMC, RMC Story. Très bon réveil à tous.
5-7, le Morning RMC.
Et c'est l'heure de retrouver Victor Pourchet pour le journal. Bonjour Victor.
Bonjour Élise, bonjour Mathieu et bonjour à tous.
À la une, cet accord Iran-États-Unis pour mettre fin à la guerre.
Annoncé hier pour signature vendredi, Donald Trump s'enthousiasme sur une réouverture du détroit d'Ormuz. Téhéran se félicite d'une défaite américaine. On vous récapitule tout dans un instant. Ne pas manger à sa faim en France en 2026, c'est l'habitude de plus de la moitié des travailleurs pauvres selon un chiffre que vous dévoile RMC. Ce matin. Et puis ils sont prêts à nous refaire le coup de 2002. Nous irons à Dakar auprès des supporters sénégalais à la veille de ce France-Sénégal entré en liste des Bleus à la Coupe du Monde.
La fin de la guerre au Moyen-Orient semble se concrétiser ce matin.
Après 3 mois et demi de conflit entre l'Iran et les États-Unis, on refait le film d'hier. D'abord, le médiateur pakistanais qui annonce un accord trouvé. Quelques minutes plus tard, Donald Trump assure lever le blocus américain du détroit d'Ormuz. Téhéran confirme ensuite que cela signifie la fin immédiate des combats. Romain Cluzel, en direct avec nous. On rentre dans le détail de cet accord avec vous.
Eh bien, l'un des points principaux de cet accord concerne donc la réouverture du détroit d'Ormuz. Le président américain Donald Trump annonce déjà une réouverture sans droit de passage pour les bateaux. Sur son réseau social, il se réjouit que le pétrole coule à flot. En réalité, c'est plus compliqué que cela. D'abord parce que cet accord ne sera formellement signé que vendredi à Genève. Et puis parce qu'il faut sécuriser le détroit pour permettre la navigation. De nombreuses mines ont été installées par les Iraniens. L'accord entre Iran et États-Unis ouvre surtout la voie à de nouvelles négociations de 60 jours avec plusieurs sujets de discussion pour tenter de trouver un accord définitif. La levée des sanctions, la reconstruction de l'Iran et la question du nucléaire qui reste le grand point d'interrogation. Donald Trump répète que les Iraniens vont renoncer au développement du nucléaire, ce que dément Téhéran.
Réaction immédiate également des marchés. Le cours du pétrole a chuté moins 6,5% autour de $83. Pendant qu'Emmanuel Macron dit de son côté attendre de voir les conséquences de cet accord, notamment sur la situation au Liban.
Et pour cause, ce qui frappe, c'est le silence d'Israël depuis l'annonce hier.
Pas un mot d'officiel israélien alors que l'Iran dit les alliés des Américains humilié, qu'il martèle que la fin des combats inclut ceux qui ravagent le Liban. À rebours de toutes les déclarations israéliennes jusque-là, c'est un enjeu à venir, selon le chercheur en sciences politiques Sébastien Boussois.
Si le sens global de l'histoire et si le mouvement est de parvenir à un accord pour l'intérêt des deux belligérants, mais également des pays de la région et de la communauté internationale, je ne suis pas sûr que ce soit cela qui fasse déraper les choses. En tout cas, il est clair qu'il faudra que Donald Trump contienne son partenaire Benjamin Netanyahou, parce que les deux n'avaient pas du tout la même stratégie du côté de Benjamin Netanyahou. Cette obsession de la destruction de la République islamique et de ses proxys semble clairement montrer au bout de 100 jours que tout ça est impossible. Donc à un moment, comme dit le proverbe, il faut savoir terminer une guerre.
Et il en sera évidemment question à Evian qui reçoit dès aujourd'hui un sommet du G7 où Donald Trump est attendu en fin d'après-midi. À quelques kilomètres de là, à Genève, des manifestations anti-G7 ont dégénéré hier. Des affrontements entre les forces de l'ordre et des Black Blocs qui ont pris pour cible plusieurs bâtiments près du siège de l'ONU.
Un phénomène des casseurs contre lequel Sébastien Lecornu dégaine un projet de loi.
Un texte présenté en Conseil des ministres courant juillet, précise le Premier ministre. Mais avant ça, direction le Conseil d'État, qui aura du travail de vérification à faire, Romain Hougue, parce que dans ce projet, préparé 2 semaines après les heures de la victoire du PSG, il y a des mesures qui vont se frotter à la Constitution.
Oui, Sébastien Lecornu veut afficher sa fermeté. Lorsqu'on participe à une violence collective, on doit en assumer individuellement les conséquences, explique-t-il. Concrètement, une personne présente dans un attroupement pourrait être tenue pour responsable des dégâts causés sans savoir si c'est bien cette personne qui a cassé une vitrine ou un abribus, par exemple. Le gouvernement en est conscient, un tel dispositif est très fragile devant la Constitution, alors les équipes de Matignon assurent fignoler le texte pour le rendre le plus robuste possible juridiquement. Et puis, Sébastien Lecornu souhaite mettre en place le principe du casseur-payeur. Cela pourrait passer par une ponction partielle chaque mois des aides sociales, soit du majeur mis en cause, soit des parents s'il s'agit d'un mineur. On ne sait pas encore quelle aide sociale pourrait être visée par l'exécutif. Dans tous les cas, une telle ponction se ferait à condition de laisser un reste à vivre suffisant aux personnes concernées.
Romain Hug pour RMC. Plus que deux heures avant d'appliquer les révisions ou d'y aller au talent, c'est pas l'un ou l'autre. Épreuve de philosophie du bac ce matin à 8h pour 530 000 terminales technologiques et générales. Session marquée par la chaleur qui revient à partir d'aujourd'hui.
Et pas facile d'avoir du talent quand il fait aussi chaud. C'est la raison pour laquelle le ministre de l'Éducation nationale veut consacrer toutes les épreuves le matin uniquement.
En exclusivité, vous avez eu l'examen de philo. Peut-on avoir du talent quand il fait chaud.
Vous avez 4 heures. Bon, en tous les cas, le ministre, il veut que toutes les épreuves du brevet et du bac soient le matin. Ça vous fait réagir. Vous avez peut-être des ados en ce moment qui passent une épreuve. Venez nous le dire au 32-16. À 7h10, on en parlera avec Sophie Vénétité, la secrétaire générale du SNES FSU, invitée d'Apolline.
Et 6h06 sur RMC, on en vient à ce chiffre alarmant qu'on vous révèle en exclusivité ce matin. Plus de la moitié, 54% des travailleurs pauvres ne mangent pas à leur faim et quasiment un tiers ne peuvent pas nourrir régulièrement leurs enfants. Résultat édifiant du baromètre Ipsos pour Andes, un réseau d'épiceries solidaires. Et reportage à Paris, Solène Leroux pour RMC.
Au sein de ce jeune couple, le seul salaire fixe, à peine 1500 euros par mois, c'est celui de Mitya, vendeuse, compliqué de faire des courses convenables.
Des fois, j'ai des envies de bonnes salades, de bons fruits. Et quand je vais voir le prix, ça me donne même pas envie de manger. Quand tu payes le loyer, les charges et tout ce qui s'ensuit. Deuxième semaine, on commence déjà à manger des pâtes. Hein.
Beaucoup de féculents, c'est presque la routine pour 70% des travailleurs pauvres. Scheherazade a beau être employée dans un restaurant scolaire, c'est difficile de nourrir ses deux enfants.
Les salaires ne bougent pas, l'avion, tout ça, ça coûte très très cher. J'ai mangé assez, oui. Quand il y a des bons trucs, je les donne à mes enfants. Je préfère mes enfants avant moi.
Je suis Thierry, je suis trésorier de Solidaya, donc il y a une épicerie.
C'est un lieu où les personnes dans le besoin peuvent faire des courses à bas prix. Environ la moitié des bénéficiaires ont un travail.
Des personnes en CDI, c'est quelque chose qu'il y a quelques années, on ne voyait pas encore. Mais là, on a de plus en plus de gens qui ont un emploi. Simplement, ça ne leur permet plus de vivre correctement.
La solidarité nationale, on ne la voit pas forcément, dit-il. Plus de 4 travailleurs pauvres sur 5 se disent abandonnés par les pouvoirs publics.
Et on en parle ce matin, évidemment, avec vous, au 32-16. Travailleurs pauvres, ça veut dire que on est sous le seuil de pauvreté, mais on est à 1300 euros. Ce sont des gens qui travaillent. Ce sont des gens qui travaillent et qui n'arrivent pas à se nourrir, voire qui se privent pour pouvoir nourrir leurs enfants. Est-ce que vous vous reconnaissez finalement dans cette description, dans le fait que la vie est de plus en plus chère ou que les salaires sont insuffisamment élevés? Vous réagissez au 32-16 ce matin. On en parle à 6h40 avec Yann Auger, directeur général du réseau Andes.
Et J-1 avant le premier match des Bleus au Mondial.
RMC, radio officielle de la Coupe du Monde de la FIFA 2026.
Eh oui, France-Sénégal, c'est demain, une affiche qu'on n'avait pas vue en compétition officielle depuis 2002. Mauvais souvenir pour nous, évidemment, c'était une défaite en phase de groupe de la Coupe du Monde. Victoire iconique, au contraire, pour les Sénégalais. RMC est allé à Dakar, où Arnaud Valadon, l'espoir est grand de rééditer l'exploit.
Oui, et au Sénégal, ce match face aux Bleus sera l'événement le plus regardé de l'année à la télévision par des supporters qui affichent une confiance débordante.
Ça sera chaud parce que c'est France et Sénégal, mais à la fin, on sait qui sortira vainqueur.
Et c'est qui ?
C'est le Sénégal, c'est clair, mec, c'est clair, c'est le Sénégal.
Impossible de ne pas sénégalais. Avec cette belle équipe que nous avons, moi, l'objectif que j'ai dans ma tête, c'est tout simplement aller conquérir le monde et on va se donner les moyens pour.
Et si l'équipe nationale marche bien, c'est grâce à ses jeunes joueurs, selon Mohamed, entraîneur au club de Dakar Sacré-Cœur.
La formation qu'on a eu à cette décennie-là nous a fait du bien. Les clubs formateurs comme le nôtre et les autres académies font du bien à l'équipe nationale.
Pour Adama Kandé, journaliste à 2S TV, deuxième chaîne de télé du pays, tous les Sénégalais ont encore en mémoire la victoire 1-0 contre la France en ouverture du Mondial 2002.
Elle a permis cette Coupe du Monde de révéler des joueurs parce que beaucoup ont eu des contrats en Angleterre. Donc on ne peut pas oublier de sitôt cette année 2002. Donc tout ceci réuni fait qu'aujourd'hui, vous avez vu même dans l'attelage technique de l'équipe nationale, il y a beaucoup de joueurs de 2002 qui sont là.
C'est par exemple le cas de Pape Thiaw, l'actuel sélectionneur, qui compte bien rééditer l'exploit face aux Bleus demain soir. Non.
Et les derniers résultats, d'abord, on vous l'a dit juste avant ce journal, la victoire de la Suède 5-1 contre la Tunisie. Les Pays-Bas et le Japon ont fait match nul 2-2. La Côte d'Ivoire a battu l'Équateur 1-0. Et l'Allemagne s'est largement imposée hier contre le petit poussé Curaçao 7-1. Et puis un dernier mot, sport de combat de MMA. Le Français Cyril Gagne a gagné son combat contre le Brésilien Alex Pereira. Et pas n'importe où, cet événement de l'UFC, il avait lieu à la Maison Blanche, pardon, rien que ça.
Pour l'anniversaire de Donald Donald Trump.
Eh oui, joyeux anniversaire.
Ça se fête, 80 ans. Ouais. Mais un combat de MMA à la Maison Blanche, fallait l'inventer. Bref, merci. C'était le journal Victor. On a pas mal de messages aussi. On va en parler dans un instant. Le choix de la rédaction, justement, l'idée de suspendre le permis pour usage du téléphone au volant. Les Deux-Sèvres rejoignent les 7 autres départements qui s'y sont mis. C'est ce message qui n'est pas signé, qui nous dit contre la mesure du retrait de permis sur tous les départements de France. J'ai Florent, en revanche, qui nous dit bien sûr qu'il faut suspendre le permis quand on est au volant. On est au volant. Je me souviens d'un imbécile au volant sur son téléphone. La voiture de droite me laisse passer quand je traverse. J'aurais traversé devant lui, il m'aurait écrasé. Voilà ce que dit Florent de son vécu. Sinon, un mot de Laurent qui nous dit alors la guerre est finie. Le litre de gazole devrait logiquement descendre à 1,70€. On va surveiller Laurent. Il y a aucun doute là-dessus. On va surveiller. Mais Victor, vous le disiez dans le journal, -6,5 sur le baril de pétrole, $83. On n'attend pas une baisse à la pompe dans la matinée. Non. Mais on va surveiller Laurent. Soyez en sûr. Il est 6h11.
Et ça y est, c'est le moment de jouer pour gagner votre prime de match avec 500€ par but marqué à chaque match de cette Coupe du Monde. Alors, il y a eu plein de matchs cette nuit, plein de buts aussi. Et la prime, elle est maintenant, Mathieu, de 49 000€. Et ouais, on a sorti la calculette. Retenez bien le montant de la prime.
Ah bon,
49 000€, puisqu'à tout moment, on va vous appeler et on peut vous demander ce montant. Il faut absolument nous donner le montant pour remporter la prime de match. Et pour ça, vous envoyez but au 7-32-16, but au 7-32-16. Vous avez 10 minutes tout pile pour jouer. Il est 6h12 jusqu'à 6h22. Bonne chance à tous.
75 centimes par SMS, 3 SMS maxi.
Et dans un instant, c'est le choix de la rédaction. On retrouve notre correspondant en Gironde. Bonjour Pierre Bourgès.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
Pierre, vous nous dévoilez un chiffre RMC ce matin. 500 permis de conduire ont été suspendus depuis janvier à cause du téléphone au volant. Une règle qui s'étend petit à petit.
Et oui, puisqu'à partir d'aujourd'hui, le département des Deux-Sèvres devient le 8e département à mettre en place cette sanction de suspension du permis en cas d'usage du téléphone au volant.
A tout de suite sur RMC et RMC Story.
5h-7h.
5-7, le Morning RMC.
Élise Dangean, Mathieu Béliard.
Il est 6h16 sur RMC et RMC Story.
RMC, le choix de la rédaction.
Et le choix de la rédaction, c'est avec vous ce matin, Pierre Bourgès. Vous êtes le correspondant d'RMC en Gironde. Bonjour.
Bonjour Élise, bonjour Mathieu, bonjour à tous.
Pierre, vous nous révélez aujourd'hui que depuis le 1er janvier, plus de 500 permis ont déjà été suspendus pour usage du téléphone au volant. C'est un chiffre RMC, chiffre qui devrait continuer d'augmenter puisqu'aujourd'hui les Deux-Sèvres deviennent le 8e département à mettre en place la suspension du permis de conduire en cas d'usage du téléphone.
Le téléphone qui est mis en cause dans près d'un accident sur 10 selon la sécurité routière. Pierre, vous avez justement constaté que les automobilistes sont nombreux à utiliser leur smartphone en conduisant.
Eh bien oui, la preuve, lors d'un contrôle routier que j'ai pu suivre près de Niort il y a quelques jours, les gendarmes étaient positionnés sur un rond-point d'une zone commerciale. À ce moment-là, c'était surtout pour faire de la prévention. Mais on l'a dit, à partir d'aujourd'hui dans les Deux-Sèvres, ces sanctions peuvent désormais tomber. Et ici, en moins d'une heure, 6 personnes ont été arrêtées pour l'usage du téléphone au volant. Écoutez.
Bonjour monsieur.
Bonjour.
Je suis en moyenne nationale. Donc je procède à votre contrôle par rapport à l'usage du téléphone.
Oui, comme je vous ai dit.
Ça entraîne une suspension du permis de conduire, d'accord ? L'infraction du téléphone.
Dans les Deux-Sèvres aussi ? Je crois que c'était en Charente-Maritime.
Dans les Deux-Sèvres aussi, d'accord.
Le directeur du cabinet du préfet des Deux-Sèvres, Tony Chenet-Lloyd, était lui aussi présent.
Nous avons fait le choix dans le département des Deux-Sèvres de démarrer par une période de 15 jours. On se doute que la suspension d'un permis, ça n'est pas neutre, notamment pour des gens qui travaillent. L'objectif, c'est d'abord de faire prendre conscience aux automobilistes que la route est un espace partagé et qu'il est impératif d'être concentré, de ne pas être distrait par le téléphone.
Et alors, on le disait, Pierre, 8 départements ont mis en place cette sanction et on a déjà ce matin un premier bilan.
Et oui, ce sont des chiffres que l'on vous révèle ce matin sur RMC. Depuis le 1er janvier, plus de 500 permis ont été suspendus. 21 dans le Pas-de-Calais, 38 dans le Lot-et-Garonne. Depuis le 1er mai en Charente-Maritime, ce sont aussi 55 permis qui ont été retirés. Et dans les Landes, premier département à avoir mis en place cette sanction, 400 permis ont été suspendus depuis le 1er janvier.
400 permis dans les Landes. Vous avez d'ailleurs retrouvé l'un de ces automobilistes, Pierre?
Oui, j'ai rencontré Claire. Cette coach sportive landaise nous raconte comment elle a perdu provisoirement son permis en janvier dernier.
En milieu de chemin, mon support téléphone a cassé. Et à ce moment-là, j'avais besoin de mon GPS. Donc, je tiens mon téléphone dans la main. Et en fait, j'entends la sirène qui me prévient que bah voilà, je me suis fait voir en tenant mon téléphone, quoi.
Voilà, et alors précisons-le, hein, ce qui lui vaut une sanction ici, c'est bien d'avoir son téléphone en main. Résultat, les gendarmes la verbalisent, 135 euros d'amende, 3 points en moins. Et 2 semaines après son arrestation, elle reçoit un courrier, son permis est suspendu pour 15 jours.
Si je dois être honnête, je me suis effondrée. J'en ris aujourd'hui, mais c'était, sur le moment, c'était un drame pour moi parce que mon activité me demande de me déplacer tout le temps. Et je suis à un endroit où il n'y a pas de moyen de transport. Et donc là, je me suis dit, c'est une catastrophe. Même 15 jours, c'est une catastrophe. J'ai utilisé mon vélo, j'ai utilisé mes petits pieds. Je me suis débrouillée comme j'ai pu. J'ai essayé de faire en sorte que mes rendez-vous soient plutôt en visio qu'en réel.
Bon, alors on l'entend, Pierre, c'est embêtant, mais quand même, le téléphone au volant, il faut le rappeler, c'est illégal.
Mais c'est surtout très dangereux, comme le rappelle Jean-Yves Lamant, président de la Ligue contre la violence routière.
Quand vous téléphonez au volant, vous avez des temps de réflexe qui sont multipliés par deux, donc des distances d'arrêt et de réaction qui sont multipliées par deux. Vous avez un champ de vision qui est réduit de 35%, et vous avez aussi votre attention qui est réduite de 30%, y compris lorsque vous téléphonez en Bluetooth.
Lui salue cette sanction qui peut s'échelonner de 15 jours à 6 mois si d'autres infractions sont constatées en même temps. Il encourage même les autres départements à mettre en place aussi cette mesure.
Est-ce que c'est assez dissuasif, Pierre ?
Alors, selon les chiffres des départements, oui, dans les Landes et en Charente-Maritime, par exemple, depuis la mise en place de cette sanction, le nombre d'infractions constatées a diminué de 10 à 25%. Mais à en croire Claire, qui a aujourd'hui retrouvé le volant de sa voiture, eh bien, pas vraiment. Elle l'avoue, elle est toujours autant addict à son portable aujourd'hui.
Merci beaucoup, Pierre Bourgeat. J'attends vos réactions au 32-16. Vous n'hésitez pas ce matin. Est-ce qu'il faut généraliser cette mesure? On est à 8 départements, 500 permis suspendus. Alors, vous l'avez compris, hein, 80% dans les Landes, qui est le premier département à avoir lancé cette initiative. C'est ce qu'expliquait Pierre Bourgeat. Dites-nous au 32-16 ce matin, est-ce qu'il faut généraliser cette mesure de suspension du permis en cas d'usage du téléphone au volant? Il est 6h20. Les grands titres de l'actu ce matin, Élise.
Emmanuel Macron appelle à la mise en œuvre rapide et complète de l'accord entre l'Iran et les États-Unis qui devrait être signé vendredi en Suisse, alors que s'ouvre aujourd'hui le G7 à Évian. G7 où est attendu Donald Trump qui annonce une réouverture imminente du détroit d'Ormuz. En France, coup d'envoi des épreuves écrites du bac avec la philo. 530 000 terminales vont plancher parfois sous de fortes chaleurs. Et puis le mondial et les résultats de la nuit, victoire 1-0 de la Côte d'Ivoire sur l'Équateur, nul 2 partout entre les Pays-Bas et le Japon, et la Suède qui a battu la Tunisie 5-1.
Et le docteur du morning est arrivé. Bonjour Aurel Guedj.
Bonjour.
Salut Aurel.
C'est l'heure de la consultation gratuite.
Oui, à partir d'aujourd'hui, vous pourrez perdre du poids et tout ça, et ben on ferait de la sécu.
A tout de suite sur RMC et RMC Story.
Jusqu'à 7h.
5-7, le morning RMC.
Élise Dangean, Mathieu Béliard.
Il est 6h25 sur RMC et RMC Story. C'est l'heure d'aller voir le docteur.
RMC, consultation gratuite.
Et ça y est, à partir d'aujourd'hui, certains traitements contre l'obésité comme le Mounjaro ou le Wegovy peuvent être remboursés par l'assurance maladie. Docteur, concrètement, qui est concerné?
Alors, ça quand même, on a essayé de réduire les gens concernés. Il faut que vous soyez atteint d'une obésité morbide, c'est-à-dire un IMC supérieur à 40, pour que vous ayez une idée. Lorsque vous faites 1m70, c'est à peu près 115 kilos. Lorsque vous faites 1m80, on est plutôt aux alentours de 130 kilos. À partir de ces chiffres-là, ou alors un peu moins lorsque vous avez une comorbidité associée à l'obésité, un syndrome d'apnée du sommeil, de l'hypertension artérielle. Mais ça reste des gros chiffres. Et il faut aussi avoir conscience que l'autre chose, c'est un traitement de seconde intention. C'est-à-dire qu'il faut, pour avoir ce remboursement à 65%, il faut d'abord être dans les clous niveau poids. Il faut avoir un suivi en centre spécialisé de l'obésité. Donc c'est pas juste votre généraliste qui peut vous le prescrire pour que vous soyez remboursé. Et l'autre chose, il faut que ce soit en seconde intention. C'est-à-dire que vous ayez fait un régime bien conduit avec un suivi adapté. Par contre, la grosse question, c'est d'accord, ok, si je suis dans les clous pour me faire rembourser, ça veut dire j'ai une obésité morbide, j'ai un suivi spécialisé, mais est-ce que je peux toujours avoir ça qui est prescrit par mon médecin traitant? Alors oui, votre médecin traitant peut vous le prescrire, par contre, vous ne serez pas remboursé. C'est important de rappeler quand même que c'est plusieurs centaines d'euros par mois quand même de dépenses.
Ah oui, et pardonnez-moi, je suis en train de regarder les prix en même temps.
Ah oui, c'est plusieurs.
C'est pas un Doliprane.
Non. 150 et 200 euros.
Voilà, c'est à peu près ça. Mais il faut bien avoir conscience d'une chose, c'est que là, vu qu'il y a un remboursement, maintenant, ce sera le même prix dans toutes les pharmacies, alors qu'avant, c'était variable en fonction des pharmacies. Et pourquoi votre médecin traitant peut vous le prescrire? C'est qu'il faut avoir conscience que en l'Europe est beaucoup plus tolérante sur les indications de prescription. C'est juste que vous serez pas remboursé par la sécurité sociale si vous êtes en dessous. Mais en Europe, théoriquement, par exemple, pour 1m70, eh bien, à partir de 78 kilos, on peut vous le prescrire. Alors qu'on avait dit que normalement, pour être remboursé, c'est 116 kilos.
Ah oui.
Vous vous rendez compte de du différentiel?
Il y a un gap colossal. Ça veut dire qu'on, cela dit, on peut pas le prendre comme ça quelques jours juste avant l'été, summer body, quoi.
Non, parce que c'est
important. En étant remboursé.
Non, parce que c'est important de rappeler que c'est un médicament qui a des effets secondaires et que c'est pas pour rien qu'on veut qu'il y ait un suivi parce que, première chose, l'idée de ce médicament, ça va principalement jouer sur la satiété en reprenant une hormone qui est produite par l'intestin. Et le problème, c'est que si vous avez pas un suivi adapté, vous allez avoir une reprise de poids importante lorsque vous allez arrêter. Pour vous ayez une idée, eh bien, vous allez avoir deux tiers des patients qui vont avoir, après l'arrêt du traitement, eh bien, une reprise de poids. D'accord, c'est quand même important. La deuxième chose, vous avez 50% eh bien, de perte musculaire quand même. Donc, c'est important d'en avoir conscience. Donc, réellement, il faut avoir ce suivi et savoir que, eh bien, malheureusement, vous avez des effets indésirables. Alors, les effets indésirables très fréquents, généralement, c'est des troubles digestifs. Mais vous pouvez avoir des effets indésirables plus graves, pancréatite, occlusion intestinale. Donc, c'est un médicament où il faut un suivi. Et c'est un médicament qui n'est pas juste là comme une béquille avant l'été. C'est un médicament vraiment pour perdre du poids, mais je le rappelle, c'est important d'ajouter à ça un régime, voilà, et du sport, et vraiment d'avoir un suivi avec son médecin, pas juste de prendre ça en se disant ça va me faire perdre du poids vite fait avant l'été.
Merci beaucoup Aurel Guedj, le médecin du matin, la consultation gratuite à retrouver en podcast quand vous le souhaitez, puis vous posez vos questions de santé aussi sur le WhatsApp RMC au 06 12 424 424.
Et on va tout de suite rejoindre Mathias qui nous appelle depuis Gorges en Loire-Atlantique pour le mot caché. Bonjour Mathias.
Bonjour.
Comment ça va ce matin?
Ben, très bien, impeccable, et vous-même?
Ben, très bien, j'espère parfait. Que vous avez identifié le mot caché. Ça...
Oui, tout à fait, c'est méchoir.
Méchoir,
vous saviez ce que ça voulait dire?
Alors, si j'ai bien compris, c'était mal tourné, quelque chose comme ça?
C'est essuyer un revers, échouer.
Voilà.
Voilà.
Bon,
non mais vous l'avez peut-être dans mon utilisation tout à l'heure quand je l'ai utilisé, parce que moi je découvre aussi des mots tous les jours avec vous Mathias. Vous gagnez la montre Kelton, oui. Les 70 super. Ans de la marque iconique.
Impeccable.
De l'horlogerie française. Vous avez chaud déjà, Mathieu, ou pas?
Mathias,
pardon.
Non, pas encore. Bah, quand on est à la fraîche, eh ben, il fait bon, ouais, c'est bien.
Parce que je crois que vous allez écouter Géraldine dans un instant, elle est par chez vous en Loire-Atlantique. Ça va cogner. Oui. Merci Mathias, oui, oui. On vous envoie la montre chez vous.
Merci beaucoup.
5-7, le Morning RMC.
Et c'est l'heure du journal avec Thibaut Texer. Bonjour Thibaut.
Bonjour Mathieu, bonjour Élise, bonjour à tous.
La paix au Moyen-Orient.
C'est l'information de la nuit à la veille de l'ouverture du G7 américain et iranien. On confirmé hier soir la signature d'un accord. Il devrait être signé vendredi à Genève. Place au foot, désormais pour la sélection iranienne qui débute sa Coupe du Monde. Après des mois de spéculation autour de leur présence aux États-Unis, nous serons en direct de Los Angeles dans ce journal. Et le réveil qui a déjà sonné pour les futurs bacheliers, début des épreuves ce matin, 8h. À la fraîche, c'est ce que souhaite généraliser le ministre de l'Éducation pour éviter les fortes chaleurs de l'après-midi.
Donald Trump attendu aujourd'hui à Évian.
Le président américain va s'envoler pour la France. C'est en Haute-Savoie, sur les bords du lac Léman, que vont se retrouver les dirigeants des grandes puissances mondiales. Dernier G7 pour Emmanuel Macron. Jusqu'à mercredi, un sommet aux discussions légèrement chamboulées après l'annonce d'un accord de paix entre Américains et Iraniens. Les deux parties se sont donné rendez-vous à Genève vendredi pour la signature officielle et annonce d'ici là, l'arrêt total des combats. Washington pour RMC, notre correspondant Antoine Lard. Un accord, enfin, après 4 mois de guerre, confirmé par Donald Trump sur ses réseaux sociaux en ce jour si spécial pour le président américain.
Oui, on peut dire que le timing de cette annonce est parfait pour Donald Trump. Pile le jour de ses 80 ans, il ne pouvait pas rêver d'un meilleur cadeau d'anniversaire. Hier soir, il a donc pu profiter de la grande fête organisée à la Maison-Blanche avec ce gala de MMA, un sport de combat pour projeter une image de force et de puissance. Tout cela serait tombé complètement à plat s'il était resté embourbé dans des négociations sans fin. Alors le président n'a pas donné beaucoup de détails sur ce deal, mais il annonce que le détroit d'Hormuz sera rouvert dès vendredi, dès la signature de l'accord, et qu'ensuite... Eh bien, le pétrole va couler à flot. Ça, c'est évidemment très important pour lui. Il a promis aux Américains que les prix à la pompe allaient rapidement baisser une fois la guerre terminée. Trump, qui se montre aussi triomphant, il parle d'un deal formidable qui apportera la paix et la sécurité dans la région. De nombreux présidents ont essayé. Ils ont tous échoué avant moi, dit-il. La réalité est pourtant bien plus modeste. Sur le nucléaire, rien n'est encore réglé et tout est renvoyé à des négociations ultérieures.
Un accord qui tombe à point nommé en pleine Coupe du Monde et à la veille de l'entrée en lice de l'Iran. Ce sera la nuit prochaine face à la Nouvelle-Zélande. La sélection iranienne est arrivée aux États-Unis hier, suivie par Nicolas Pelletier. Pour RMC, vous êtes l'envoyé spécial RMC en direct de Los Angeles ce matin. Nicolas, vous avez assisté hier à la première conférence de l'équipe iranienne qui veut désormais se concentrer sur le football.
Oui, après plus d'une heure et demie de contrôle par les services de l'immigration, le groupe iranien a pu fouler le sol américain et monter à bord d'un bus siglé République islamique d'Iran. Tous les joueurs ont eu le précieux sésame, c'est-à-dire le précieux visa. Mais 11 membres du staff, dont le président de la fédération, ont dû rester de l'autre côté de la frontière à Tijuana au Mexique, faute de visa. Pour ses premiers pas à Los Angeles, le sélectionneur iranien Amir Galenoé a voulu apaiser la situation.
Je suis très heureux de représenter ma grande nation qu'est l'Iran. Je suis très content d'être là. Nous sommes ici pour jouer au football, nous respectons tous les Iraniens. Il faut séparer le foot et la politique.
Ce premier match face à la Nouvelle-Zélande inquiète fortement la FIFA qui craint des messages politiques en tribune de la communauté iranienne de Los Angeles, fortement opposée au régime en place. La FIFA qui scrutera aussi les joueurs iraniens par crainte d'une action politique pendant l'hymne national. Pour le moment, ce n'est pas la tendance côté joueurs de réaliser ce genre d'action.
Nicolas Pelletier, en direct de Los Angeles ce matin pour RMC, radio officielle de cette Coupe du Monde. On suivra aussi ce soir, 21h, les débuts de la Belgique dans la compétition face à l'Égypte. En attendant la France, demain soir, face au Sénégal, 21h. Ce sera aussi à vivre sur RMC, comme les résultats de la nuit. La Suède, qui a battu la Tunisie 5-1, victoire également de la Côte d'Ivoire et de l'Allemagne face aux novices de Curaçao. Pas de vainqueur entre les Pays-Bas et le Japon. 2-2. Je vous le rappelle, la Coupe du Monde, c'est à vivre sur RMC, radio officielle de la compétition.
Il est 6h34 sur RMC, c'est le jour J pour 530 000 élèves de terminale.
L'heure de faire le plein d'énergie pour le début des épreuves du bac. Ça commence ce matin, 8h, philosophie avec un accent mis sur l'orthographe. À la demande du ministre de l'Éducation qui demande moins de laxisme en la matière. Édouard Geffray qui réclame également la fin des épreuves l'après-midi à partir de 2027. Conséquence des épisodes de chaleur de plus en plus précoces. Un peu comme ce qui nous attend en milieu de semaine. Et autant le dire, Lou Garnier, l'annonce du ministre fait écho aux frais des futurs bacheliers que vous avez rencontré pour RMC.
Fiche Bristol à la main, ultime révision avant le début de l'épreuve.
J'essaie d'apprendre un peu les thèses principales, mais c'est un peu la mouise.
Un stress des épreuves du baccalauréat qui s'ajoute à l'appréhension de la chaleur. Pour Lénie et Karim, il va falloir redoubler de concentration.
La chaleur, c'est la mort. On transpire, on a chaud. L'air, il est difficilement respirable. Ça va peut-être nous donner envie de partir plus tôt de l'épreuve, de vouloir bâcler.
Ça va être plus compliqué que sous des conditions normales. La chaleur, ça donne un peu envie de dormir. Je sais, je vais m'endormir sur ma copie, mais juste, faut pas que ça soit trop long. Là, il y aura plus un enjeu psychologique.
Ça joue au mental de ouf.
D'autant plus que les salles d'examen ne sont pas toujours très adaptées à la chaleur, comme celle dans laquelle Henri s'apprête à passer près de 4 heures.
Je passe dans une salle vitrée, donc ça fait un peu effet serre. On est 30 par salle, et c'est des petites salles, pas climatisées, pas d'air, pas rien.
Alors pour éviter le coup de chaud, il a plusieurs astuces.
Tous les matins, je vais à la piscine, du coup ça rafraîchit un peu. Ma mère, elle m'a acheté un genre de ventilateur brumisateur. Je pense que ça va bien se passer avec ça.
Sans oublier plusieurs litres d'eau pour rester bien hydraté.
Et on en parlera avec Apolline aussi. Chez Apolline ce matin, Sophie Vénétité du SNES-FSU qui viendra réagir à cette annonce du ministre. D'une manière générale, les examens. Mais vous réagissez aussi sur les cours. Vous dites, moi j'ai pas un gamin en troisième ou en terminale, mais j'en ai qui vont aller en cours alors qu'il va faire 35 degrés dans le sud-ouest. Vous continuez à réagir sur l'état de nos écoles en période de forte chaleur au 32-16.
C'est un peu l'opération de la dernière chance pour Duralex, l'usine de Chapelle-Saint-Mémin, mais c'est fou en veille pour 15 provisoirement Victor Jonin afin de baisser les charges de l'entreprise placée en redressement judiciaire.
Cette pause va permettre de faire des économies sur la matière première car l'objectif est de soulager la trésorerie de l'usine en grande difficulté. Voilà pourquoi la direction demande aussi aux salariés volontaires de prendre une semaine de congés payés, congés qui seront pris en charge par le régime de garantie des salaires. Les équipes restantes vont concentrer leur activité sur l'emballage de verre et de vaisselle, aujourd'hui stockés en attente de livraison. Il y a l'équivalent de 1,5 million d'euros de commandes en retard, autant d'argent frais qui pourrait rentrer dans les caisses. Des mesures d'urgence pour permettre à la SCOP de tenir jusqu'au 2 juillet, date à laquelle le tribunal des affaires économiques d'Orléans recevra ses dirigeants pour faire un état des lieux. La situation est surveillée de près par Bercy. À cause d'erreurs de gestion, le mur se rapproche, regrette l'entourage du ministre de l'Industrie.
On connaît les affiches des demi-finales du Top 14 après avoir marché sur La Rochelle. Hier soir, 45-5, le Stade français défiera Montpellier. Samedi, Toulouse affrontera le Racing 92. Notez aussi que Perpignan reste en Top 14 après sa victoire en barrage face au club de Provence Rugby. Et puis la fin de deux années de disette pour Lewis Hamilton qui a signé hier son premier succès avec Ferrari. Le pilote de Formule 1 britannique a remporté le Grand Prix de Catalogne devant Russell et Norris.
Les courses, Thibaut, c'est sur l'hippodrome de Paris-Longchamp.
18h30, exactement. Le 10, Stangeli est le favori de la Dream Team RMC. L'outsider, c'est le 13. El Pequeño, le 10 et le 13.
Merci beaucoup, Thibaut Texer. C'était le journal. Et Raph est en ligne avec nous à Mâcon, en Saône-et-Loire. Salut, Raph.
Salut tout le monde.
Alors, on a annoncé ce matin, c'est un chiffre RMC, 500 retraites de permis, suspension de permis pour être précis, depuis la mise en place de la mesure qui vise à sanctionner l'usage du téléphone au volant. Alors, il y a 8 départements qui s'y sont mis, enfin 8 depuis ce matin, les Deux-Sèvres rejoignent ce mouvement lancé par les Landes, Raph.
Ouais.
Ça vous inspire.
Non mais attendez, Raph, on va le dire les choses clairement, auditeur habitué du morning, vous êtes conducteur de convoi, donc vous c'est ces gros engins, ces gros véhicules qu'on voit avec des pales d'éoliennes, des bateaux, etc. sur la route, quand vous avez une petite, un petit modèle, j'allais citer une marque, qui est en train de regarder le téléphone et qui fait du zigzag gauche-droite, ça vous fait pas flipper, Raph?
En fait, le problème, c'est ça, c'est qu'en camion, déjà, j'ai des confrères qui utilisent le téléphone aussi au volant. On les voit quand on les double sur l'autoroute ou à droite à gauche. Mais pareil, quand on est en camion, on voit aussi toutes les voitures avec les téléphones sur le genou, au milieu de la console centrale. Et en fait, c'est triste. C'est, je sais pas si... Pourtant, le téléphone, les voitures, la plupart, c'est des voitures modernes. Donc, il y a quand même le Bluetooth, il y a quand même les... on peut téléphoner au volant. C'est pas interdit, puisqu'on peut l'avoir dans la voiture. Par contre, c'est le téléphone en main. Je pense que le problème, il vient du fléau des réseaux sociaux, de Netflix et tout ça, et que les gens sont addicts au téléphone. C'est pas le téléphone.
Oui, c'est-à-dire que dès qu'il y a une petite vibration, un petit machin, on a envie de regarder ce qui se passe dedans, quoi.
Mais donc, c'est plutôt une bonne mesure, Raph, que de suspendre le permis en cas d'usage du téléphone au volant?
Non, parce qu'en fait, les gens, vu qu'ils ont quand même besoin d'aller au travail pour gagner de l'argent et tout, ils vont rouler sans permis. Ça va créer d'autres délits.
Ah oui, vous pensez que ça va augmenter le nombre de sans permis sur les routes, quoi?
Plus ça va, plus on va retirer les permis. De toute façon, les gens qui roulent sans permis, c'est factuellement des gens à qui on a retiré le permis.
Oui, oui.
Ça, c'est obligé. Donc, si on en retire plus, il y aura aussi plus de personnes qui vont rouler sans permis.
Dans ce cas-là, on en viendra à une sanction plus dure pour la conduite sans permis. Et alors, pour le coup.
Ouais, mais avec le nombre de chances de se faire contrôler ou arrêter, je pense que les gens, ils vont faire le ratio. Il y a plus de chances de gagner à l'euro million des fois que de se faire arrêter au volant.
Mais Raph, si vous posez la bonne question, est-ce que c'est dissuasif? Parce que c'est quand même le but du jeu. Le but du jeu, c'est pas de suspendre tous les permis, c'est que les personnes concernées ne recommencent pas. Mais Raph, merci beaucoup d'avoir proposé le 32-16 ce matin. On pose la question comme ça. Est-ce que vous, si on en venait à généraliser cette mesure, il y a que 8 départements pour l'instant, mais imaginons qu'on généralise cette mesure dans tout le pays, est-ce que ça vous fait réfléchir à deux fois à sortir votre téléphone ou non? Vous nous le dites au 32-16 ce matin. Merci Raph de votre appel ce matin en direct sur RMC. Il est 6h40.
Et dans un instant, cette question, est-ce que vous parvenez à manger à votre faim malgré votre activité professionnelle? La réponse est non pour plus d'un travailleur sur deux, ce que vous révèle ce matin RMC. Bonjour Yann Auger.
Bonjour.
Vous êtes le directeur général du réseau d'épiceries solidaires Andes. C'est vous qui faites cette observation ce matin. Et dans un instant, vous nous décrivez le quotidien de ces Français qui ne sont plus protégés par leur travail.
Et puis elle est là, la bande du Morning RMC, Virginie Fulpin pour la causerie.
Et ce matin, on va revisiter l'expression « c'est le métier qui rentre ».
Et puis Anthony Morel, c'est déjà demain.
On revient sur le week-end complètement fou dans le monde de l'intelligence artificielle où les États-Unis ont forcé Anthropic, l'un des géants de l'IA, à couper ses deux modèles les plus puissants au nom de la sécurité nationale.
A tout de suite sur RMC et RMC Story.
Jusqu'à 7h.
5-7.
Jusqu'à 7h.
5-7. Le Morning RMC.
Élise Dangean, Mathieu Béliard.
Il est 6h44 sur RMC et RMC Story.
Et plus de la moitié des travailleurs pauvres ne mangent pas à leur faim. C'est le constat ce matin qu'on dresse sur RMC en exclusivité. Constat dressé par le baromètre Ipsos pour Andes, un réseau d'épiceries solidaires du groupe SOS. Et le directeur général de ce réseau est avec nous ce matin. Bonjour Yann Auger.
Bonjour.
Avoir un emploi, c'est donc plus la garantie de pouvoir... se nourrir, tout simplement?
C'est exactement ça, puisque les personnes que l'on a interrogées sont des personnes qui travaillent, qui ont un emploi parfois en CDI, parfois des emplois précaires, c'est aussi évidemment une problématique. Et vous l'avez dit en introduction, ils sont plus de la moitié d'entre eux, 54% exactement, à nous dire qu'ils ne parviennent pas en quantité à manger à leur fin. Donc on est vraiment face à une situation extrêmement préoccupante que l'on documente dans le détail dans ce baromètre.
Travailleurs pauvres, pour définir, c'est moins de 1300 euros par mois.
C'est à peu près ça, c'est moins de 1288 euros par mois, c'est le seuil de pauvreté, donc c'est 60% du revenu médian pour une personne seule.
Mais qui travaille, il faut bien le préciser, ce sont des gens en emploi, alors parfois en emploi précaire, je parle du type de contrat, mais en emploi.
C'est exactement ça, c'est vraiment le public que l'on a interrogé au travers de cette étude. Ils travaillent. Ça peut être en emploi précaire, vous l'avez dit. Évidemment, c'est un des paramètres qui conduit à cette situation. Mais c'est bien ça, on est sur des personnes qui travaillent et qui ne s'en sortent pas.
Et c'est un chiffre en augmentation ?
C'est un chiffre qui augmente. Alors, c'est la deuxième année que l'on fait cette étude, mais les chiffres sont en dégradation très légère. On va observer ça sur la durée, voir si dans les années, ça se dégrade encore. Mais oui, c'est un chiffre qui se dégrade.
Est-ce que dans votre réseau d'épiceries solidaires, c'est quelque chose que vous pouvez mesurer ? Je veux dire, est-ce que vous voyez arriver des gens qui n'avaient jamais franchi vos portes avant ? Est-ce qu'il y a toujours aussi une forme de gêne, pour ne pas dire honte, à venir chez vous ?
Absolument, c'est la raison pour laquelle on fait cette étude. On a 43% des personnes qui fréquentent nos épiceries qui sont en emploi. Et c'est parce qu'on voyait cette tendance de fond qui augmente que l'on a souhaité documenter ce phénomène. Alors, bien sûr, vous avez raison, c'est une autre problématique. Évidemment, on ne touche pas toutes ces personnes pour des tas de raisons, et notamment parce que certaines, et on peut le comprendre aussi, ont honte de demander de l'aide alors qu'ils sont en emploi, ce qui semble quand même pas tout à fait cohérent. Voilà, on n'est pas du tout sur des personnes exclues aux minima sociaux, on est sur des personnes qui travaillent et qui ont donc parfois du mal à demander de l'aide.
Beaucoup de parents solo, des mamans solo notamment.
Ça aussi, c'est un des phénomènes préoccupants. C'est les familles monoparentales, c'est vraiment l'un des éléments clés qui conduit ces publics dans la précarité. Donc les familles monoparentales, c'est 15% de notre échantillon interrogé. C'est très significatif et c'est beaucoup de femmes, en effet.
Oui, c'est souvent quasiment exclusivement des femmes. Et alors, ce qui est frappant dans votre étude, c'est que ces gens reconnaissent se priver eux-mêmes parce qu'ils n'ont pas les moyens, mais se priver eux-mêmes aussi pour nourrir leurs enfants.
Oui, chiffre clé, on a 36% de nos répondants qui nous disent qu'ils sont contraints de restreindre la quantité de nourriture qu'ils servent à leurs enfants. Alors évidemment, ils nous disent aussi qu'ils se privent pour nourrir leurs enfants, mais malgré tout, on en a quand même 36% qui arrivent à ce type de comportement.
Comment ça se traduit dans le quotidien ? C'est sauter des repas ? C'est alléger des repas et donc terminer un repas la faim au ventre. Comment ça se traduit aussi dans le caddie de course ?
Alors c'est un peu tout ça à la fois. Ça dépend des personnes, ça dépend des arbitrages qui sont faits. Un des marqueurs très forts de cette précarité alimentaire, c'est de réduire la qualité de l'alimentation. Ça se fait beaucoup. On essaye de se nourrir suffisamment, mais avec une qualité très dégradée, beaucoup de produits transformés, moins de produits frais. Enfin voilà, ça c'est quand même un comportement qu'on observe extrêmement fréquemment, malgré une vraie aspiration de ces publics à manger sain, à manger beaucoup de produits frais. Ça se voit beaucoup dans l'enquête. Mais malheureusement, ces personnes ne peuvent pas se permettre.
Merci beaucoup, Yann Auger. Merci beaucoup d'être venu détailler ces chiffres avec nous en détail ce matin. J'attends vos appels au 32-16 aujourd'hui sur ces travailleurs pauvres. Je reprends ta formule, Élise, le travail qui ne protège pas. Au 32-16, vous allez témoigner ce matin, vous bossez, vous avez l'impression de ne pas arriver, de ne pas voir le bout, d'avoir du mal à faire des pleins de courses aussi, à mettre ce que vous voudriez mettre sur la table de vos enfants. Vous témoignez au 32-16 ce matin. Merci Yann Auger d'être venu détailler cette étude avec nous. Il est 6h49. Les grands titres de l'actualité, Élise.
Emmanuel Macron appelle à la mise en œuvre rapide et complète de l'accord entre l'Iran et les États-Unis, alors que Donald Trump est attendu à Évian aujourd'hui pour l'ouverture du G7, dernier sommet du président français. C'est le jour J pour les 530 000 élèves de terminale qui démarrent les épreuves écrites du bac, et ça commence ce matin avec la philo. Et puis les résultats de la nuit à la Coupe du Monde, victoire 1-0 de la Côte d'Ivoire sur l'Équateur, un nul de partout entre les Pays-Bas et le Japon. Et la Suède qui a battu la Tunisie 5-1.
Il est 6h49 et avant de passer à la bande, on va accueillir Christophe qui nous appelle de l'Hérault ce matin. Bonjour Christophe.
Bonjour l'équipe.
C'est le téléphone au volant hein, qui vous fait réagir nombreux et nombreuses ce matin au 32-16. Faut-il suspendre le permis, systématiser la suspension du permis en cas d'usage du téléphone au volant sur tout le territoire comme le font 8 départements, Christophe?
J'appelais surtout pour intervenir. J'ai entendu un de vos auditeurs dire que on pouvait téléphoner au volant avec le système Bluetooth ou autre parce que c'était intégré. Non, c'est faux.
Légalement, on peut.
Ah non, ben renseignez-vous. Moi, je viens de faire un stage pour récupérer 4 points. Et vous
on
n'a
pas le droit à l'oreillette. Hein. On n'a pas le droit à l'oreillette Bluetooth, mais le système Bluetooth intégré est autorisé.
Non, renseignez-vous. Si vous avez un accident grave, autrement dit corporel, ils vont demander à votre opérateur si vous utilisiez le téléphone, autrement dit si vous étiez en communication, et vous serez en tort si vous étiez en communication, Bluetooth ou pas.
Moi, je vois par exemple un site d'un assureur là qui rappelle que. Non, mais vraiment, on s'est renseigné en plus, Christophe, c'est pas la première fois qu'on a ce débat. Ça n'enlèverait en fait que ça distrait l'attention, légal ou pas légal, ça reste un sujet.
Moi, je vous dis ce que j'ai appris au stage de récupération de points. Voilà, je vais dire que j'ai plus confiance au formateur que éventuellement ce que vous avez pu lire. Renseignez-vous, faites intervenir un formateur et vous verrez que voilà.
Ils vont réagir au 32-16, Christophe. Vous les entendrez ce matin. On lira les messages, quoi qu'il en soit. Mais merci d'avoir composé le 32-16 et d'être intervenu en direct avec nous ce matin. Il est 6h51. On va passer à la bande.
Et la causerie de Virginie Fulpin. On a eu deux déceptions ces dernières heures. Victor Wembanyama qui est vaincu en finale NBA. Paul Sexas qui abandonne le Tour d'Auvergne cycliste. Vous nous dites que c'est pas tant des mauvaises nouvelles que ça. Hein.
Alors, évidemment qu'on est déçus à la base. Hein. On parle de deux jeunes champions à qui on promet un avenir brillant. Victor Wembanyama, il a eu des fulgurances lors de cette finale NBA entre son équipe des San Antonio Spurs et les New York Knicks, vainqueurs. Des fulgurances, un talent hors norme, d'accord, mais parfois il a fait son âge, 22 ans. Hein. Paul Sexas, lui, est remonté sur son vélo hier pour la dernière étape du Tour d'Auvergne-Rhône-Alpes. Il voulait pas abandonner alors qu'il avait fini l'étape de la veille, le maillot déchiré. Chiqueté et tacheté de sang après sa lourde chute du début de journée. Bon, finalement, il a dû se résoudre à poser le vélo.
Alors, Victor Wembanyama dit qu'il a pris la plus grande leçon de sa vie.
C'est la plus grande leçon de ma vie, le plus grand moment d'apprentissage. Je ne peux pas dire exactement ce qu'est cette leçon, mais nous apprendrons de cela.
C'est donc le métier qui rentre. Il analyse très bien cette défaite en disant qu'en fait, il n'était pas prêt à gagner le titre parce qu'il y a un truc qu'il n'a pas. Ben, c'est évidemment l'expérience. Ça ne s'acquiert pas comme ça. Cette finale perdue, elle vaut des semaines, des jours d'entraînement aujourd'hui. Il sait ce qu'il sépare du titre. J'ai presque envie de dire que ce n'est pas plus mal parce que le sport, c'est rarement j'arrive, je suis le meilleur et je gagne. Il y a tout l'apprentissage. Hein. Et cette finale, ça va justement lui permettre de travailler ces petites choses qui font la différence. L'avenir lui appartient, le présent, pas encore tout à fait. Quoi.
Bon, Paul, c'est que ça se aussi, il a appris des choses sur le Tour d'Auvergne-Rhône-Alpes.
Bah, c'est la première fois qu'il ne va pas au bout d'une course. Première fois de sa toute jeune carrière, il a 19 ans. Hein. En l'absence des meilleurs, nous on le voyait déjà tout en haut de l'affiche. Mais non, n'oublions pas qu'il a 19 ans, qu'à son âge, Tadej Pogacar avait terminé 4e du Tour de Slovénie. Personne ne savait qui c'était et ce qu'il faisait là. Et c'est comme ça qu'il a grandi. Donc Paul Sexas aussi, il a eu droit à une formation accélérée. Un contre-la-montre par équipe raté, une chute, un abandon. Honnêtement, il vaut mieux être passé par ce genre de déconvenu avant d'aborder le Tour de France qui commence le 4 juillet, ça va servir. Donc pour Wemby comme pour Paul Sexas, le meilleur est à venir, n'en doutons pas, ça change rien ça.
A priori, il vaut mieux chuter sur le Tour d'Auvergne-Rhône-Alpes que sur le Tour de France.
Je pense qu'on peut conclure comme ça, c'est pas mal.
On a la défaite aussi et on en apprend tous les matins sur RMC, n'appelez plus hein, les formateurs en sécurité routière, c'est vérifié sur le site du ministère de l'Intérieur, de la sécurité routière. Vous avez le droit au téléphone si vous avez un dispositif intégré au véhicule ou intégré au casque aussi, n'oublions pas les motards. C'est pour répondre à Christophe, il est 6h53.
Et c'est déjà demain avec une décision qui fera date dans l'histoire de l'intelligence artificielle. Ce week-end, Anthony, le gouvernement américain a contraint Anthropic, l'un des géants de l'IA, à couper l'accès à ses modèles les plus puissants pour des raison de sécurité nationale, de quoi on parle exactement?
Alors, je vais recontextualiser un petit peu, parce que ça va très vite dans l'intelligence artificielle. Anthropic, vous situez un peu, c'est...
Claude.
Voilà, exactement, c'est Claude. Et Claude, c'est l'un des grands concurrents de ChatGPT. Voilà. Et donc, il y a quelques semaines, Anthropic a sorti un modèle qui s'appelle Mythos. Alors, il l'a dévoilé, mais ne l'a pas sorti commercialement. Pourquoi? Parce qu'il est jugé comme trop dangereux, précisément. Pourquoi il est jugé comme dangereux? Eh bien, parce que cet outil, de manière totalement autonome. Il est par exemple capable de détecter des failles de sécurité informatique dans des logiciels qu'on utilise dans la vie de tous les jours. Ça, c'est un des exemples, si vous voulez. Bon, un peu flippant quand même.
On voit très bien comment ça peut être.
Voilà. Ils ont sorti un autre modèle qui s'appelle Fable 5, qui est un petit peu édulcoré. Quand on lui pose des questions jugées un peu dangereuses, c'est un modèle moins puissant qui va répondre très bien. Sauf que, il y a un certain nombre d'utilisateurs qui ont réussi à contourner les garde-fous mis en place, à en prévenir les autorités américaines qui ont pris les choses très au sérieux et qui ont dit on va obliger en fait Anthropic à couper l'accès à ces modèles d'IA à tous les non-américains, préférence nationale pour l'intelligence artificielle. Alors Anthropic a dit c'est trop compliqué à mettre en place, ils ont coupé l'accès à tout le monde, mais ça nous montre, et c'est ça l'intérêt de cette actualité, c'est notre dépendance technologique absolue face aux Américains. C'est-à-dire qu'aujourd'hui on a un pays étranger qui peut nous couper l'accès. Qu'est-ce qui se passe si demain un laboratoire pharmaceutique, une grande banque française utilise ces IA et qu'on leur coupe l'accès du jour au lendemain, ça va être dramatique, d'où l'intérêt de faire la promotion peut-être de nos IA françaises, notamment Mistral.
Notamment Mistral, et comme ça c'est fait, et puis il faut aussi s'interroger, tiens c'est matin de bac philo, il y aura peut-être des questions sur l'IA, on verra. Merci beaucoup Anthony Morel, salut Apo.
Salut Apo.
Salut tout le monde, excellent lundi, je prends le relais dans un instant avec notamment la question du bac et de la chaleur, début dans une heure des épreuves du bac, et ça commence traditionnellement par la philo, justement, vous le disiez, des épreuves sous une chaleur intense toute la semaine, 35 degrés attendu aujourd'hui en Gironde et ça perturbe certains candidats. Vous êtes enseignant ou alors vous êtes parent, vos enfants passent le bac aujourd'hui, venez nous raconter comment ça se passe et comment vous vous organisez. À tout de suite.
5-7 Le Morning RMC.